une production du Studio SF.
Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Vous le savez, ici au Studio SF, on loue notre espace, mais en ce moment, on est en rénovation. On est en train de développer deux nouveaux espaces uniques pour enregistrer vos podcasts. Fait que si ça vous tente d'avoir accès au matériel, aux techniciens, à tout ce que vous voulez pas vous occuper, mais que ça vous tente pas non plus d'être dans le même décor que beaucoup de podcasts qui se font au Québec, ben inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Au moment où est-ce que je vous parle, vous allez pouvoir très prochainement réserver les autres espaces. Vous allez en entendre parler davantage. Allez voir sur notre site web, studiosf.ca. Cette semaine, non?
Cette semaine, c'est un grand honneur et un grand plaisir de recevoir Louise Sigouin, que j'adore, que j'ai découvert dans l'émission Si on s'aimait, qui est sexologue et qui accompagne en fait les participants de cette émission-là et les gens, les couples dans la vie pour... Qui pour les aider à cheminer, à apprendre davantage sur eux, à briser leurs patterns. Elle nous a expliqué son approche des 5 dualités. C'est vraiment passionnant. Elle nous a fait même fait l'exercice de découvrir quelles sont nos dualités. Alors, on s'ouvre, on se commet un petit peu dans ce podcast-là. C'est super le fun. Elle est super passionnante. Elle est attachante. Elle connaît son sujet. Elle est bienveillante. On l'adore. C'était vraiment un grand plaisir de la savoir.
Une excellente conversation qui nous permet de comprendre plusieurs affaires sur... Tu sais, on vieillit, on accumule les expériences, on a des échecs, on a des réussites, puis d'essayer de comprendre ça mieux. Mm-hmm. C'est toujours intéressant. Mm-hmm. Avant de vous laisser à la conversation, on va aller remercier nos commanditaires. Merci beaucoup d'être là ce matin.
Hey, ça me fait plaisir, c'est fou sympathique.
Ouais, oui. On est confortable dans notre studio.
Ben oui, c'est le fun.
Ma blonde est extrêmement jalouse que je te rencontre là.
Oui.
Ah oh, ouais, t'es une grande fan. Mais c'est drôle parce que plusieurs personnes que j'ai dit quand je faisais un podcast avec toi, puis qui étaient genre, ah, oh, je suis tellement jaloux, j'aimerais tellement ça la rencontrer, elle est tellement hot. Puis tu sais, on reçoit vraiment toutes sortes de monde hot, si, mais il y a quelque chose avec Louise Sigouin de particulier, là. Vraiment.
C'est le fun.
C'est ça.
Est-ce que les gens te reconnaissent dans la rue?
Absolument.
Ouais. Puis ouais. J'imagine que les gens. Moi, j'ai fait occupation double, fait que j'ai fait de la télé un petit peu. Puis, tu sais, mettons, les gens, te voient, puis ils pensent qu'ils te connaissent, fait qu'ils sont comme moins gênés de venir te parler d'affaires qui te regardent pas du tout. Mais j'imagine que toi, ça doit être terrible. Les gens doivent venir te parler de leur couple la première seconde qu'ils te voient.
Mais c'est fou. Tout le monde a cette préoccupation-là et les gens ne font pas ça.
Ah ouais, hein?
Au contraire, c'est vrai qu'ils m'abordent un peu comme « Hey, salut! » Comme si on vivait ensemble, comme s'ils me connaissaient. C'est très, très familier. Puis là, à un moment donné, ils réalisent que « OK, c'est moi. » Mais au contraire, c'est plus pour me dire le bienfait que ça fait. Fait qu'ils me posent pas de questions. Ouais. Ils veulent pas d'intervention. C'est comme « Hey, depuis que cette émission-là joue, on écoute ça en famille. Mon chum l'écoute maintenant. Ça crée des belles conversations. Mm-hmm. » Puis ça me fait le plus grand plaisir. Fait qu'ils m'interpellent beaucoup. Puis je pensais que je m'en tirerais au début parce qu'on avait le masque, puis tu sais, mes lunettes. Puis ma voix, c'est souvent ma voix qui interpelle, parce que comment je connais ça, cette voix-là, tu sais.
Quand okay, t'es à l'épicerie, là, puis tu dis merci, moi, j'entends.
Ouais, c'est ça, je connais ça. L'autre fois, j'étais changé mes pneus, puis la madame m'a dit « Êtes-vous Madame Sigouin? » C'est comme j'étais de dos, tu sais. Fait que non, c'est juste très gentil, puis à quel point ça a des bienfaits, puis c'était ça, le but d'exercice, vraiment susciter des introspections, que les gens se posent des questions, puis que ça éveille des questionnements pour être meilleur en relation. Ouais.
Mais c'est ça qui est le fun avec cette émission-là, tu sais. Tu sais, des émissions de dating, il y en a plein, tu sais, mais d'avoir le regard professionnel à travers tout ça, c'est ça qui fait la particularité de cette émission-là. Puis c'est ça qui fait que, tu sais, les candidats, les participants font un cheminement en faisant ça, mais à la maison, en l'écoutant, des fois, tu te reconnais dans certains personnages, des fois, tu te reconnais dans certains dans certaines
dynamique.
Choses dynamiques ou toi, comme chose que tu décris, donc... ça, à la maison aussi, il peut y avoir un cheminement quand même en écoutant cette émission-là.
Oui, puis la particularité du docu-réalité de Science MS, c'est que les gens continuent de vivre dans leur quotidien. Fait qu'on on les voit dans leur attitude, dans leur habitude, dans leur façon d'être. Puis cet effet de ce processus-là d'identification, on finit tous par se retrouver quelque part dans une façon de se comporter, dans une maladresse, dans un commentaire. Puis je pense que c'est ça qui inconsciemment, on est assis tranquille dans son salon, tout à coup, ça nous touche, ça fait comme « Oh mon Dieu, ça me ressemble » ou « Ça ressemble à quelqu'un que je connais » puis c'est ça qui nous aide, même si on n'est pas directement impliqué, à faire le processus puis à se poser des questions.
Mm-hmm. Toi, ça fait 25 ans que tu travailles là-dedans.
Oui.
Puis, j'imagine que tu n'aurais jamais pensé au milieu d'un show de télé un jour. Là.
Non. J'avais beaucoup à cœur de trouver une façon. Tu sais, j'ai fait des conférences pendant longtemps en me disant qu'est-ce que je pourrais faire, parce que le besoin, il est là, d'apprendre à se connaître, des outils pour le faire. Tu sais, c'est comme ça se prête dans n'importe quelle conversation de comment je peux faire pour cheminer, puis apprendre à me connaître, puis m'améliorer, mais les gens, ils manquent d'outils. Fait que les conférences, pour moi, c'était une façon de me dire, je vais donner de l'information accessible à tous, où les gens vont pouvoir un peu ramener ça à la maison puis s'interroger. Mais la télé, tu sais, quand Anne m'a abordé, parce que Anne, c'est l'idéatrice du projet.
C'est elle qui t'a approché.
Oui, c'est quelqu'un que je connais depuis 25 ans, okay, donc j'étais en totale confiance. Je trouvais que le projet, à cause de son caractère éducatif, il était génial. Puis à cause de cette portée-là, je me doutais bien que...
Il y a beaucoup plus grosse portée que les conférences. Là.
Fait que là, je me dis, il y a plein de monde, là, tu sais, de la Côte-Nord à l'Abitibi, où les gens peuvent avoir accès. Ils ne sont pas obligés nécessairement de consulter. Pour eux, c'est des précieux conseils, des informations qui peuvent faire beaucoup de différence dans leur quotidien.
On parlait tantôt de... que dans l'émission, les gens retournent dans leur quotidien. Mais ça, c'est quelque chose, justement, que dans les émissions de dating traditionnelles, ça se passe pas. Là, t'sais, pour l'avoir vécu de première main, là, t'sais, tu développes une relation. Tu développes une relation qui est basée sur quelque chose qui n'existe pas vraiment, t'sais, qui est tellement hors de ta propre vie que tu peux même pas, t'as même pas de repère, t'es même pas la même personne que t'es dans ton quotidien. Fait que de retourner dans son quotidien, effectivement, ça doit trouver vraiment résonance assez forte chez les gens qui sont chez eux. Puis parce que le quotidien, je veux dire, c'est 99% de notre vie, c'est on se lève, puis on est chez nous, là, tu sais, puis on est dans nos affaires, là. T'sais.
Oui, puis on voit où ils vivent, les amis qu'ils ont, la famille, les enfants, comment ils circulent dans tous les domaines de leur vie. Puis je pense que ça contribue à ce qu'on puisse s'identifier puis se retrouver, puis avoir un regard bienveillant. Je trouve que les gens, ça les aide à voir qu'il y a différentes façons d'être, différentes personnalités, différents comportements, puis ça crée quelque chose de plus accueillant pour la différence.
Puis tout ce que tu décris là aussi, tu sais, les amis, l'environnement, tout ça, toutes des choses quand même qui viennent jouer ou qui viennent teinter dans une relation puis qui sont importantes au final aussi. Là, quand tu te rencontres quelqu'un justement dans un contexte exceptionnel, puis là t'arrives, puis là finalement son mode de vie, puis son entité, puis il n'y a rien qui concorde dans tout ce qui entoure cette personne-là, ça joue quand même beaucoup.
Oui, puis tu sais, quand on rencontre des gens, on se présente tous sur notre meilleur jour. On est beau, on est fin, on est extraordinaire, mais dans les faits, on se donne rendez-vous. Bon, la personne, es-tu ponctuelle? Es-tu disponible? Vis-tu en fonction de ses valeurs ou elle a juste lancé ça? Fait que ce contexte-là, c'est vraiment représentatif de la vie de tous les jours.
Ponctuel, toi, ça te résonne quelque chose.
Ça résonne en moi. Moi, j'ai je sais pas comment appeler ça, là, j'ai cancellé des relations juste pour un retard vraiment bénin au cinéma, là, tu sais. D'arriver genre un 10-15 minutes en retard à une heure qu'on s'était donné, là.
Parce que t'étais trop inconfortable?
Non, parce que moi, je sais pas, dans ma tête à moi, c'était super important, la ponctualité. Okay. Fait que moi, j'étais là 15 minutes avant, puis là, t'sais, 15 minutes après, puis... Mais t'sais, rendu là...
J'étais plus jeune. Tu as laissé aller l'autre personne qui est arrivée en retard.
Ouais, c'est
je pensais
ça.
Que toi, tu t'étais flushé.
Non.
OK.
Non, moi, j'ai
très important.
Ouais, très important. Ceux qui écoutent, vous êtes avertis.
Tu me disais, avant qu'on commence, que toi, dans le fond, à travers l'émission de Si on s'aimait, tu vois les candidats dans ton bureau comme ça serait normalement.
Ouais.
Mais tu ne vois pas l'extérieur, tu ne vois pas les émissions, en fait. Parce que... Puis quand tu les écoutes après... T'es surprise parce que tu vois souvent ou c'est ça ça ressemble à ce que tu aurais pu t'imaginer de ce que tu connais déjà des candidats, de les avoir eu dans ton bureau?
Ben, généralement, c'est un bon reflet de ce qu'ils me racontent parce que dans la démarche qu'ils font avec moi, ils sont très volontaires, ils sont honnêtes dans leur capacité. Là, parce que de l'extérieur, on peut avoir dit, mon Dieu, s'il y a des contradictions, mais dans leur façon de se présenter à moi, ben, effectivement, ça correspond généralement à ce qu'ils m'ont raconté, à comment ils l'ont vécu. À... Mais après ça, dans leur quotidien, ben là, c'est sûr qu'il y a comme un autre regard que le téléspectateur peut avoir différemment du mien. Mais moi, c'est même dans mon bureau, c'est comme je vois toujours derrière. Le comportement, il est peut-être inapproprié, mais derrière, il y a toujours une bonne intention, il y a toujours une bonne volonté. Fait que moi, je reste toujours avec cette même lunette-là quand je regarde les émissions, puis je les vois dans leur vie, dans leur quotidien. Mais c'est une réalité que j'ai jamais connue, parce que la personne qui me consulte, je la vois pas vivre dans son quotidien. Fait que c'est comme une nouvelle facette là, que je découvre.
Ouais. C'est vraiment intéressant, ça.
Est-ce que des fois, tu sais, des fois... Les participants, puis j'imagine les gens que tu rencontres dans la vie, faut que tu les brasses un peu, ou du moins, faut que tu leur dises leurs quatre vérités des fois aussi, tu sais, pour peut-être qu'ils prennent peut-être conscience d'un mauvais pattern ou quoi que ce soit. Ça doit être un défi, ça, quand même, d'être capable de faire bien passer quelque chose qui pourrait être mal pris ou mal interprété.
Bien, la première chose à faire, c'est de créer un lien de confiance. À partir du moment où tu as un lien de confiance, tout peut se dire, tout dépend de la façon dont on se le dit, mais si j'ai pas de lien, puis j'essaie de présenter une vérité à quelqu'un qui est pas en confiance, que ce soit moi, toi ou peu importe quelqu'un d'autre, ça fonctionnera pas. Donc, c'est important de créer un lien de confiance. Puis après ça, moi, je leur demande souvent, tu veux-tu mon opinion? Est-ce que, ben, mon opinion professionnelle, bien, pas mon opinion, mais je peux-tu te dire quelque chose que j'observe? Puis les gens, généralement, ils sont réceptifs. Puis à la limite, ils vont me dire, oh, j'haïs ça que tu me dises en affaire de même, mais t'as raison. Fait que, tu sais, faut pas perdre de vue que la personne qui me consulte, elle consulte sur une base volontaire. C'est un investissement financier, quand même. Fait que les gens, ils sont là pour avoir un début puis une fin à la démarche. Fait qu'ils sont soucieux d'avoir quelque chose, des outils concrets, des vérités qui vont les aider. Puis souvent, je vais dire quelque chose, ils vont dire, ah, ma blonde, elle me dit tout le temps ça. Puis, je me suis déjà fait dire ça par mon patron. Oh mon Dieu, ça a tellement résonance parce que dans ma vie, je me fais souvent reprocher ça. Fait que là, à partir de là, devant cette admission-là, ben, on va pouvoir trouver des... Mais c'est mon devoir de dire les choses telles qui sont présentées, sinon ça donne quoi? On n'est pas là pour les flatter dans le sens du poil, comme on dit.
Oui, c'est ça, parce que la démarche est commencée. Fait que si tu cherches pas, si t'es pas honnête dans ta démarche, ben ça sert à rien de commencer.
Puis les gens, quand ils sont rendus là, à consulter, à prendre cet engagement-là, à s'investir financièrement, c'est parce qu'ils sont prêts. Puis c'est toujours la même motivation. Dans toute ma carrière, il n'y a jamais personne qui m'a dit « Hey, Louis, j'ai comme un petit 100$ à investir par semaine. Ouais. Là, j'ai une vertu de croissance et d'évolution. » C'est toujours la souffrance. Oh. Je suis plus capable, c'est souffrant. Je suis tannée de ce pattern-là. Je suis tannée d'être ça. Fait que ça, c'est le moteur qui fait comme « OK, là, je t'investis puis je veux que ça change. » Fait que on est tous dans la même direction une fois que le lien de confiance est établi.
Est-ce que c'est plus des gens célibataires ou des gens en couple qui viennent te voir?
Les deux.
Les deux?
Oui.
Autant.
C'est des relations en difficulté ou c'est des gens qui ont eu des relations puis là, ils sont à un point tournant de leur vie, qui ne veulent pas répéter les mêmes patterns. Vous n'avez pas idée de comment il y a des gens qui sont seuls depuis très longtemps. Puis ça me motivait beaucoup aussi dans le projet de Si on s'aimait, parce que autant on a des applications, des sites Internet, des façons diverses de rencontrer, les gens n'ont jamais été aussi seuls. Parce qu'il y a quelque chose qui est très expéditif, qui fait que pour certaines personnes, ils n'ont pas le temps de se présenter tels qu'ils sont. Ils n'ont pas le temps de voir la relation évoluer, qu'ils sont déjà éjectés. Ça fait vivre beaucoup de solitude aux gens qui sont en démarche, parce que c'est un autre processus. Là. On n'est pas dans la démarche qu'on avait avant, où on apprenait à se connaître, on avait un collègue de travail, où on avait une voisine. Puis là, comme, tranquillement, les sentiments s'installaient, puis là, ça laissait place à quelque chose comme, faut que je fasse mon pitch rapidement, faut que je le fasse adéquatement, faut que j'arrive à l'heure.
Ouais.
Sinon, je risque d'être éjecté.
Ouais. Ouais.
Fait que les gens, ils vivent beaucoup de solitude. Fait que beaucoup de célibataires ou des couples en difficulté.
Ouais. Parce que c'est vrai qu'avec les applications de rencontre, les médias sociaux, t'as toujours l'impression que si c'est pas parfait de la première seconde, il y a 1 million d'autres options qui s'offrent à toi, mais en réalité, c'est pas vraiment ça. Ça sera jamais parfait à la première seconde, dans le fond. Là.
Non, puis ça, moi, donnez-vous au moins 3 rencontres. Parce que la première rencontre où on est plus sur l'observer, l'autre, à se dire, tu es correct, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui marche pas, ou de se mettre dans une position où il faut que je sois parfaite. Après ça, l'autre rencontre, bon, on est un peu plus déposé, on regarde, OK, puis la troisième, on choisit. Bon, C'est sûr que si, au premier abord, il y a quelque chose qui me frappe, qui est contre-valeur, pas obligé, mais ça, dans une première rencontre, c'est trop de stress, c'est trop de pression. Mmh. Mais c'est la réalité. Souvent, il y en a qui vont vite se faire rejeter ou qui vont choisir de ne pas y aller pour toutes sortes de bonnes raisons. Puis on est dans cette ère-là. Mmh. Fait qu'il faut trouver des façons d'entrer en relation puis de se présenter avec le plus d'authenticité possible. Je pense que rendu là, c'est notre meilleure carte à jouer. Mmh.
Puis c'est ça aussi qui est une particularité de l'émission, j'ai l'impression, c'est que souvent, au moment où est-ce que, mettons, normalement, ça aurait été terminé, ou tu sais, c'est comme on encourage à continuer, poursuivre, dépasser ça, puis essayer de comprendre ça. Puis même si ça finit pas nécessairement, mettons, en relation amoureuse, ben les deux vont peut-être apprendre quelque chose. Absolument. Sur eux-mêmes, puis apprendre quelque chose sur les relations.
Parce que dans la vie, là, écoute, ça, c'est quelque chose qui me fascine depuis le début de ma carrière, c'est tout milieu confondu, de tous les groupes d'âge, de toutes les orientations, de tous les genres, on répète tous un pattern qu'on a appris dans notre système familial. Il va s'améliorer, il va se raffiner, on fait ça cute en s'en allant. Mm-hmm. Fait que quand on arrive à ce moment charnière-là où c'est comme là, je suis inconfortable, je devrais aller plus loin, mais généralement, les gens abandonnent. Mais là, dans l'émission, on va les dire, OK, à cette étape-ci, ils vont me dire, ah, je m'en irai. Ah, je suis pas capable. Puis là, si on va plus loin, bien, comme tu dis, on n'aura peut-être pas un duo amoureux, mais on va voir, OK, j'ai dépassé cet inconfort-là qui fait que généralement, je m'en vais parce que tu vois, ben ça ne marche pas, puis je suis mal, puis je suis à l'envers, puis ça me dérange, puis bon, toutes nos façons de réagir. Mais si on arrive à traverser cet inconfort-là, ça veut dire que la prochaine relation que je vais attirer, mais elle risque d'être moins proche de mon pattern.
Mais c'est quelque chose que tu recommanderais, tu sais, dans le contexte de l'émission, vu que toi, tu es là, puis que tu guides ça un peu, c'est, justement, ça peut être propice à en prendre plus sur soi, mais est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais dans la vie, mettons, de même quand tu le sais?
De dépasser l'étape où est-ce que tu cancellerais normalement.
Ouais. Oui, mais ne serait-ce que de le dire. Moi, cette étape-ci, l'habitude, là, je ne sais plus quoi faire à cette étape-ci de la relation. Si je me retenais, je quitterais la relation. Peux-tu en parler? Voici ce qui me dérange. Parce que souvent, c'est les premiers inconforts. Trois mois de passion, c'est le fun, on tripe, on a du fun, c'est fluide, on dirait qu'on se connaît depuis toujours. C'est toujours la même année, il y a une autre étape d'engagement qui arrive. C'est celle-là que c'est comme, finalement, il n'est pas si ponctuel que ça, puis il est donc bien désordonné, puis j'aime pas comment il s'habille. Puis tous nos inconforts, parce que le pattern, c'est ça, c'est une blessure qui émerge. Mm-hmm. Puis le comportement qu'on utilise pour la contourner, bien, c'est là que les comportements arrivent. Fait que pourquoi pas juste en parler, parce que on peut-tu aller plus loin que ça? Surtout si on est dans les mêmes valeurs, puis on a plein d'intérêts, puis on partage des points communs. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Pas un supplice d'années, mais on peut-tu se donner une semaine, un mois pour qu'on essaie de faire les choses différemment? Mais il faut sortir du non-dit.
Oui, c'est ça l'affaire.
Oui, c'est ça qui est dur.
J'imagine que c'est souvent ça le gros problème, c'est tout est dans le non-dit, dans le fond, puis personne communique vraiment.
Oui, puis on entretient que si c'était amoureux, puis c'était la bonne personne, on n'aurait pas à discuter de ça, alors que je sais pas qui a dit ça, que ça devrait être fluide, naturel. Ça le devient, mais avec le temps. Moi, mon expérience, dans ce que je constate dans mon bureau, c'est avec le temps, les gens développent la complicité, puis ils se comprennent, puis les conflits se résorbent plus rapidement. Mais pas après 3 semaines de rencontre. Mm-hmm. Après 3 semaines de rencontre, ce qui est très, très compatible, c'est souvent de la passion, puis c'est le fun. Là. Profitons-en quand ça passe, parce que maintenant, ça se résorbe, puis c'est une autre étape de la relation.
Est-ce que tu remarques que souvent, les couples qui durent dans le temps, c'est les couples qui, ça a été justement plus lent comme progression, mettons, plutôt que la passion. Parce que, tu sais, on voit toutes sortes de dynamiques dans l'émission, tu sais. Puis il y en a qui c'est très, très fort au début, puis qu'à un moment donné, ça meurt ou bien ça pète. Puis d'autres que c'est au début, pas nécessairement mon genre habituel. Puis finalement, ces personnes-là se découvrent, puis ça devient les plus belles relations, mettons.
Ben moi, ce que j'observe, c'est que j'en ai vu pour tous les goûts. Tu sais, j'ai un couple, ils sont connus, puis 17 jours après, ils se sont mariés, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Mais j'en ai qui ont parti sur des grosses passions, puis ça a terminé aussi. Puis il y en a qui ont été... Fait que je pense qu'il faut se donner cette ouverture-là. Il y a des relations qui commencent sur l'amitié. Il y a des relations qui commencent lentement. Il y en a qui partent en passion, mais les gens qui partent sur une... passion, il faut toujours garder à l'esprit que ça va se résorber. On ne peut pas vivre d'une passion où je bois du jus d'orange, je ferme les stores, puis on fait juste s'aimer. À un moment donné, il faut aller travailler, s'occuper de nos enfants, se réaliser. Puis c'est un choc là, pour ceux qui sont très patients quand ça redescend. C'est que, on s'aime, puis on s'aime différemment. Fait que c'est le seul conseil. La façon d'entrer en relation, puis le début, dans la mesure où ça respecte le besoin de tout le monde, c'est grave, parce que j'en ai vu pour tous les goûts. Mm-hmm. Mais c'est sûr que moi, je prône prendre son temps. Je prône 10 relations sexuelles avant, 10 rencontres avant une première relation sexuelle.
C'est beaucoup, ça, de nos jours, là.
C'est énorme. C'est tout énorme. Le monde me le négocie. Ah, oh, Louise, au moins 5.
4, 5,
là. Je peux essayer 10, à 4.
10, c'est beaucoup.
C'est vrai que c'est beaucoup parce que c'est, tu sais, étalé sur une fois semaine, quasiment 2 mois.
Ouais.
Mais ça permet de voir la personne dans son quotidien. C'est exceptionnel qu'elle est en retard. Ce qu'elle me dit puis ce qu'elle fait, est-ce que c'est congruent? Les gens, ils se sont tellement fait dire toutes sortes d'histoires parce qu'on le fait tous. Je suis belle, je suis fine, je suis extraordinaire. Là, je ne le dis pas que je suis boudeuse, traîneuse, porgueilleuse.
Mm-hmm.
Fait que c'est comme, ça permet ça. Puis si jamais ça ne se termine pas par une relation amoureuse, c'est moins souffrant quand ça se termine.
Mm-hmm.
Parce que, puis l'autre affaire, c'est que si la personne avait juste une rencontre sexuelle, puis moi, j'ai une attente amoureuse, mais il va y avoir un déchirement. Mais là, ceci étant dit, si c'est juste sexuel, puis on est tous les deux à la même place, alors on y va, là. Oh. Je ne sais pas dire 10 rencontres. C'est plus dans un contexte amoureux.
Parce que moi, j'étais sous l'impression que la appelons ça chimie sexuelle, était un des facteurs importants pour un couple de longue durée, mettons. Puis s'il n'y en a pas du tout, j'aimerais mieux le savoir d'avance, mettons, là, qu'après 2 mois d'engagement puis de découverte de la personne. Mettons.
Mais c'est un très bon point. Fait qu'il y a des gens qui vont dire, « Oh non, non, moi, la chimie sexuelle, c'est super important, il faut que je vérifie ça rapidement. » Donc, c'est plus comme une attirance naturelle, une alchimie, des papillons. Mais la sexualité, pour préserver cette intensité-là dans le temps, elle va passer par une autre façon que juste la pulsion. Fait que d'un côté ou de l'autre, fait que ça part en passion, tant mieux, on valide ça, mais à un moment donné, il faut que la sexualité prenne une autre forme parce qu'on n'est pas toujours aussi passionné. Fait qu'elle va passer par un aspect physique, un aspect émotif, un aspect intellectuel. Puis c'est toutes ces dimensions-là qui finissent par s'investir ou par amour avec le temps. C'est plus aussi pulsionnel et physique, mais c'est par amour. Puis c'est comme, ah, oh, j'aime ça, comment il réfléchit mon chum. Puis check les s'exprimer ou check comment elle défend son point. Puis là, il y a quelque chose qui maintient le désir. Fait que d'un côté ou de l'autre, on va avoir le même travail à faire.
Ouais.
Fait que c'est correct de le vérifier. Négocions ça pour 5 rencontres.
Ouais. C'est ça. Ouais, en plus, dans notre génération, où est-ce qu'il y a, il y a Tinder et toutes ces affaires-là, c'est comme c'est quasiment la nature même de l'application et pour une rencontre sexuelle, quasiment, là, tu sais. Fait que de commencer à, sur Tinder, faire, hey, by the way. ça va être dans 10 dates.
Mais sans que ce soit 10 dates, parce que c'est vrai que ça peut être épeurant puis traumatisant, on peut-tu juste prendre notre temps? On peut-tu faire les choses différentes? Puis c'est ça que les gens souvent vont acquiescer dans la proposition que je leur fais. J'ai toujours fait ça. On a une relation sexuelle. 5 mois après, je découvre que cette personne-là n'est pas tout à fait celle qu'elle m'a présentée. Puis là, je suis déçue, puis je suis écœurée de répéter ces patterns-là. Fait que faisons les choses différemment en espérant d'avoir des résultats différents.
C'est quoi qu'on a à perdre,
dans le fond. C'est sûr que. Fait que si déjà on l'essaye 2-3 rencontres au lieu de la première, c'est déjà gagnant. Puis ça nous donne des éléments. Puis ça nous. Je trouve que ça permet à l'esprit et au cœur de s'ouvrir. Parce qu'au-delà des attirances physiques, il y a toutes les qualités de cœur. Comment cette personne-là se comporte au restaurant, quand on arrive au cinéma, juste prendre une marche, être fatiguée après 5 minutes ou...
Ouais.
Il y a tellement dans les activités de façon d'apprendre à découvrir l'autre. C'est ça qu'on présente aussi dans Science Semaine, dans les activités. Il y en a qui sont willing, il y en a qui sont plus pudiques. Puis ça parle de l'individu, que ça plaise ou pas. Là.
Qu'est-ce qui est à la base du besoin de l'être humain d'être en couple? Qu'est-ce qui crée ça? Parce que, tu sais, on pense aux animaux non humains, puis il n'y en a pas tant que ça qui créent des couples pour longtemps, là, tu sais.
Oui.
Puis quand on pense aux humains, ben on dirait qu'il y a comme peut-être une conception sociale qui a été créée autour du couple. Qu'est-ce qui est à la base de ça? Puis pourquoi encore aujourd'hui, même si on essaie, mettons, de remettre en question les conventions sociales puis les créations sociales, ben on est quand même ramené au couple, tu sais.
Mais c'est un très bon point. C'est purement de mon expérience, rien de scientifique dans ce que j'avance. Mais, bon, d'abord, les animaux ont besoin d'être reliés. Souvent, les chevaux, par exemple, les dauphins, les animaux, ils vivent en
harde,
en meute. Fait que je pense que d'emblée, l'être humain a un besoin indéniable d'être relié. Je pense qu'on l'a vu avec la pandémie. Même si on avait des contacts virtuels, puis des contacts textos, ce besoin-là, là, de se voir pour vrai, puis de socialiser, il s'est manifesté comme quelque chose de très, très important dans un premier temps. Puis tu as raison, parce que c'est comme si, même si c'est le domaine souvent le plus souffrant, on est blessé, on est rejeté, on est abandonné, on est déçu, on est trahi. L'être humain a beaucoup de mal à renoncer. Hey, moi, la vie amoureuse, là, j'en peux plus. J'en ai certains clients qui l'ont fait, mais c'est la souffrance qu'ils ont pris. Parce que malgré tout, puis ça, c'est une autre raison, je pense, qui explique le succès de Si on s'aimait, c'est que tout le monde cherche ce besoin-là d'être exclusif, d'être le numéro un pour quelqu'un, d'être la personne qui fait la différence. Puis je pense que c'est ce besoin-là qui fait qu'on ne l'a pas de la même façon en relation d'amitié, on ne l'a pas de la même façon en famille, on ne l'a pas de la même façon. Mais je pense que la particularité du besoin d'être amoureux puis d'être en couple, c'est d'avoir ce regard exclusif-là de l'autre, que ce soit, oui, sexuel et physique, mais aussi la première personne que t'appelles, c'est ton amoureux, c'est ton amoureuse. Je pense que c'est ça qui explique que les gens n'abandonnent pas puis qu'il y a ce besoin-là. Ceci étant dit, il y a mille et une façons de vivre la relation amoureuse. Puis ça, je pense que ça l'allège, puis ça l'enlève de la pression. On peut le vivre de façon polyamoureuse, on peut le vivre de façon très, très conventionnelle, on peut le vivre de mille et une façons. Fait que ça enlève de la pression, mais on a quand même ce besoin-là d'être... Ouais. Je pense que le besoin d'être aimé, c'est un des plus grands besoins. On peut pas passer au travers. Puis la particularité amoureuse, elle est seule et unique à la vie amoureuse.
Mais c'est drôle parce que ce besoin-là, il est là, il est fort, puis il est indéniable, mais on dirait aussi qu'il y a le besoin inverse de... Tu sais, il y a tellement d'histoires d'infidélité, tellement d'histoires de mariage qui finissent en divorce, tellement d'histoires de... que j'ai l'impression qu'il y a aussi une pulsion qui nous tire en dehors un peu de ça, tu sais, puis qu'il faut comme apprendre à combattre, là, ou à vivre avec, là, je sais pas.
Mais je pense que quand je suis en relation, il faut parler de ces notions-là. Mmh. C'est quoi la place qu'on veut donner à la fidélité? C'est quoi la fidélité pour toi? Mmh. Tu sais, il y en a, ils vont dire, ben, je ne l'ai pas pénétré. Ou je ne l'ai pas embrassé. Oh, je ne suis pas amoureux. Puis là, écoute, je vous laisse imaginer ce que ça a l'air dans mon bureau quand ils n'ont pas la même définition, puis qu'ils vivent la nature de la blessure sans en avoir parlé. Fait qu'il faut le définir. Puis c'est normal en relation d'avoir du désir, d'avoir un attrait, d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. C'est qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce que ça me dit que je suis insatisfait dans ma relation? Est-ce que ça me dit que ma relation manque de pétillant? Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir cette porte-là? Est-ce qu'on a eu cette entente-là entre nous? Ben, à partir de là, quand les ententes sont claires, puis ils peuvent changer, parce que comme être humain, on change. Mm-hmm. Fait que ma conception à 18 ans n'est pas la même à 35, puis n'est pas la même à 53. Fait qu'il y a des femmes qui vont me dire, hey, moi, là, je te le dis, s'il est infidèle, deux temps, trois mouvements, les serrures vont être changées, il ne créera pas ça. Mais quand ça arrive, à cause d'un contexte, à cause de la vie qu'ils ont créée, à cause d'un paquet de facteurs, c'est pas aussi action-réaction. Puis là, ils revisitent cette notion-là, puis ils en parlent, puis ils regardent, puis il y en a d'autres qui, effectivement, vont le faire, mais je pense qu'il faut réfléchir à ça avant que ça arrive.
Faut en parler.
Oui, puis tu sais, on se dit, ben, ça va de soi. Non, 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 pour moi, c'est clair pour toi, mais la définition, elle commence où? Fait que, clairement, on est, comme être humain, attiré par mille et une choses, mais est-ce qu'on répond à tout ce qui nous attire? T'sais, que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit une autre personne, il faut juste avoir ces conversations-là. Mais je pense que c'est le propre de l'être humain d'être attiré vers autre chose, puis d'être attiré vers la nouveauté, puis de mesurer c'est quoi l'impact, c'est quoi les conséquences, que c'est-tu correct, on s'est-tu donné cette permission-là?
Ça revient encore à la discussion, là, tu sais, à la conversation puis à la communication, dans le fond. Là, tu sais, puis c'est sûr que ça va être tout le temps la réponse qui arrive à la fin de toutes les consultations avec des clients. Ça va être tout le temps être ça, là, tu sais, au final, parce que si tu es capable de bien... Puis le problème, c'est ça. Le problème, c'est d'être capable d'émettre tes besoins, parce que écoute, entendre les besoins de l'autre, c'est une chose, mais toi, être capable d'émettre les tiens, c'est compliqué faire ça. Là, puis c'est compliqué même en être conscient.
Oui.
Savoir exactement, parce que chaque fois que, mettons, moi, je me vois émettre mes besoins, puis j'ai l'impression que la plupart du temps, quand je le fais, ben, quand les quelques fois je l'ai fait,
rectifie-t-il.
ça passe par le prisme de qu'est-ce que je pense que l'autre aimerait entendre aussi, tu sais, puis il y a ce danger-là quand même, d'être conscient, t'es-tu en train de dire ça parce que c'est vraiment ça? Tu es en train de dire ça parce que tu penses que c'est la bonne réponse, entre guillemets, pour la conversation que tu as en ce moment, puis pour éviter un certain malaise ou un certain inconfort.
Puis tu as raison, la communication, c'est tellement la base de beaucoup de satisfaction en relation, c'est-à-dire que plus j'exprime mes besoins clairement, plus j'ai de chances d'avoir une relation satisfaisante. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup camper les dualités dans la dynamique, parce que comme tu dis, est-ce que je dis vraiment ce que je pense ou je dis ce qui va faire plaisir à l'autre? Ça, c'est une dynamique pour moi. Ça, c'est vraiment me préoccuper des besoins de l'autre au détriment des miens. Mmh. Alors qu'il y en a d'autres qui ne se soucient pas du tout de ce que ça va avoir comme impact, plus comme le dépendant qui, lui, nomme les affaires, puis là, il réalise l'impact que ça a. Fait qu'à partir du moment où on a ces extrêmes-là, puis on le sait sur quoi travailler, on peut faire un mi-chemin, parce qu'on a tous une tendance. Il y a ceux qui se préoccupent bien trop des autres, il y en a d'autres qui se préoccupent un peu trop d'eux-mêmes. Mm-hmm. Mais quand on fait le mi-chemin, puis qu'on se parle, c'est ça qui rectifie. Puis t'as raison, apprendre à se connaître, tu sais, souvent les gens, je vais dire, qu'est-ce que t'as besoin? Ils savent pas. Mm-hmm. Puis c'est pas parce que, tu sais, moi, je considère qu'on est tous des êtres intelligents, on est tous des gens sensibles, mais on a peu pris le temps de s'asseoir et se dire « qu'est-ce que j'aime pour vrai? » Au-delà de « j'aime la crème glacée à la vanille puis j'aime me faire de la bicyclette. » C'est comme « qu'est-ce que j'ai envie de faire? » Mais en relation, c'est la même affaire. Puis là, il faut que j'identifie. Après ça, il faut que j'aie le courage de le nommer.
Ouais.
Puis là, il faut que j'aie la capacité de négocier avec comment c'est reçu. Puis souvent, juste de recevoir le besoin de l'autre, c'est comme « on m'a dit je suis pas à la hauteur, puis c'est-tu correct? Puis vas-tu me rejeter? » Puis là, tout part. Fait que, tu sais, faut être conscient de soi. Je pense que c'est la plus belle relation qu'on a à développer, c'est d'abord comment ça fonctionne, le petit personnage que je suis. Là, ouais. Qu'est-ce qu'il aime? Puis, parce qu'en vieillissant, on se rend compte qu'on s'améliore, mais on ne change pas. Là, la trame de fond est pas mal pareille. Ouais, ouais.
Comment qu'on le découvre? Comment qu'on le trouve? Ça? Y a-t-il des manières? Y a-t-il des exercices? Y a-t-il des... Comment
mais on se pose la question. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui me rend heureux? Moi, souvent, je dis, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petit? Puis c'est des affaires qu'on a négligées parce que, tu sais, bon, on n'avait pas le temps, puis c'était pas valorisé par notre famille. Fait que, ah, oh, mais moi, j'aimais ça dessiner. Tu sais, moi, personnellement, les dessiner, c'est pas quelque chose qui m'attire. Mais, tu sais, quand je regarde ce que je faisais, c'est comme moi, je partais en vélo. Mais, okay, mais je suis encore de même. Mm-hmm. Tu sais, quand j'ai un besoin d'être seul avec moi, je fais de l'exercice, je marche, puis il y a des gens qui vont faire de l'art. Fait que c'est des choses qui se sont exprimées spontanément à l'enfance, mm-hmm. parce qu'il fallait à l'école, parce qu'on était pressé, parce qu'on avait plus. Fait que se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Hey, quand je fais ça, là, ça me fait donc bien du bien. Puis se regarder au quotidien, des fois, on fait des affaires, c'est comme, hey, c'était donc bien le fun. Qu'est-ce qui était le fun? Mais je sais pas, c'était tellement agréable d'aller voir Dominique PH. OK, quoi? Tu sais, puis de s'obliger
qu'est-ce
à...
Qu'est-ce qui est derrière ça? De poser la question quand il se passe
des affaires. Tu sais, tantôt, je dis, c'est donc bien sympathique. Ben, tu sais, premièrement, il fait chaud, j'aime ça. Tu sais, c'est pas compliqué. L'environnement, il est feutré, il est réconfortant. Tu sais, mais m'obliger à le nommer pour qu'après ça, dire hey, « moi, je suis sensible quand il fait chaud, quand c'est réconfortant, quand c'est simple. Ah, mais ça, c'est des notions pour moi. » Fait que de le faire dans chaque affaire qu'on fait, ça nous aide donc s'observer, se poser des questions, regarder qu'est-ce qui nous... Des affaires qu'on n'aime pas, on n'aime pas ça, on a-tu le droit?
Puis c'est tellement pertinent, ça, on dirait... Ça vient de m'allumer quelque chose, là, de prendre le temps de, mettons... Tu vis soit un haut ou un bas par rapport à n'importe quoi. Une fin de semaine, mettons, le plat, tu sors de la fin de semaine, t'es comment, ça c'était le fun, ou inversement, ça c'était pas le fun.
Puis on pousse la réflexion.
Puis là, de faire pourquoi,
tu
vas être capable de mettre le doigt sur des affaires qui sont probablement vraiment importantes ou importantes dans les deux sens, dans le fond, pour toi.
Puis des fois, ça nous permet d'observer comment ça c'était super agréable, puis comment ça tout était en place pour que. Puis que c'était pas le fun. Ah, c'est peut-être moi qui étais. Dans quel état j'étais, avant de me rendre au podcast? Tu sais, fait je pense que c'est en s'observant, puis je donne souvent l'exemple de ceux qui ont des enfants. Les gens qui ont des enfants, ils ont des enfants extraordinaires. C'est toujours les plus beaux puis les plus merveilleux. Et c'est vrai, parce que le regard qu'ils ont sur eux, c'est que depuis qu'ils sont tout petits, ils apprennent à les connaître, à comprendre comment ils fonctionnent. Qu'est-ce que cet enfant-là, il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qui lui convient? Ah, il pleure pour ci, il pleure pour ça. C'est le même regard qu'il faut faire sur soi.
Mm-hmm. On est plus attentif des fois par rapport aux autres que par rapport à nous-mêmes.
Absolument. Puis de regarder ça, c'est comme, OK, bon, fais juste tourner le follow spot sur soi, puis c'est comme, OK, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Hey, ça a tellement l'air basique, mais c'est comme ça que ça commence.
Ouais. Ben, ça n'a même pas si l'air basique que ça. Tu sais, dans le sens où on prend pas le temps de faire jamais. Là. Je sais pas
ça
si on l'a déjà pris, mais moi, personnellement, je le prends jamais. Là. Je prends jamais le temps d'essayer d'analyser. Je pense que je suis juste dans le senti, puis je suis pas dans l'analyse du senti, mettons.
Oui, puis ça peut commencer à être... OK, puis ça, je le donne souvent comme exercice. Je l'ai donné souvent dans « Si on s'aimait aussi », tous les jours de se dire « Aujourd'hui, je me sens ». D'habitude, c'est bien, mal, je sais pas. OK? La journée d'après, je suis fatiguée. Ou bien, je sais pas qu'est-ce que j'ai, je suis full énervée, puis il n'y a pas de raison. De toute façon, je suis donc bien déprimée, il n'y a pas de raison non plus, mais c'est pas grave, ça me permet de m'accompagner dans la journée. Mm-hmm. Tu sais, puis de dire, OK, aujourd'hui, je vis avec cette émotion-là. Fait que c'est des petits pas comme ça qui me permettent tranquillement de comprendre un peu plus comment je fonctionne. Puis après ça, bien, c'est la même affaire pour l'autre être humain avec qui, ou les autres êtres humains avec qui je partage mon quotidien, puis d'être juste dans l'accueil de, bon, mais file pas, aujourd'hui, file pas aujourd'hui. Ça, ouais, ben c'est oui, c'est pas grave, c'est une journée de même, tu sais. Mm.
Dans l'émission, on a parlé tantôt, là, le terme dépendant, codépendant, ouais, revient beaucoup. Pour ceux qui n'ont aucune idée de qu'est-ce que ça signifie.
Les cinq dualités, c'est ça?
Oui, les cinq dualités.
Ça, c'est comme la dualité première, un peu, si on veut.
Oui, il y a cinq dualités, puis moi, je me suis inspirée de différents auteurs qui ont parlé de chacune de ces dualités-là, puis on les a appelées des dualités. Mm-hmm. Dépendant, codépendant, c'est la dualité première, parce qu'elle est beaucoup représentative de l'attitude des gens par rapport au quotidien, par rapport à la vie, par rapport à tout ce qui se passe dans une journée. Donc, le dépendant, c'est un être foncièrement centré sur ses besoins, qui peut être très, très égocentrique, qui est préoccupé d'abord par ses propres besoins, ses propres malaises, ses propres états d'âme. Il est naturellement, je mets un dépendant, je présente 10 personnes, il va aller s'associer naturellement avec un codépendant. Le codépendant, lui, est préoccupé par les besoins des autres avant ses propres besoins. Ça a l'air généreux comme ça, mais souvent, le codépendant va se préoccuper des besoins à son propre détriment. Fait que là, au début, ça va bien. Le dépendant, il a des gros besoins. Le codépendant, il en prend soin. Écoute, fusion totale. Puis à un moment donné, c'est comme là, il y a comme une expression de « je suis plus capable mm-hmm. ». Parce que ces comportements-là, ils sont l'expression de besoins inassouvis. De ce qu'on vient de dire, mon besoin n'est pas assouvi, il n'est pas répondu. Fait que là, je développe cette attitude-là. Fait que le dépendant, il est souvent chialeux, mécontent. Il dit haut et fort, alors que le codépendant, il est plus enthousiaste, il est toujours de bonne humeur, il est toujours sensible que l'environnement soit meilleur de sa cause. Fait que là, le défi, c'est de voir, il y a des qualités dans tout, puis dans les deux dualités. Parce que le codépendant, il exprime ses besoins naturellement, librement, sans aucune retenue. La difficulté du codépendant. Le codépendant, lui, est très sensible aux autres. Waouh! Là, on va faire les deux. On est sensible aux besoins de l'autre, puis on exprime nos besoins. Mm-hmm. Parce que le codépendant, c'est pas vrai que tout est toujours merveilleux et extraordinaire. Mm-hmm. Il a le droit de lui aussi dire, « Hey, un matin, là, matin gris, souris, je resterai chez nous tranquille, j'ai pas le goût d'y aller. » Juste se permettre ça, le codépendant, c'est un défi. Mm-hmm. Le dépendant, c'est comme, OK, une journée sans chiolage, on essaie, il arrive dans mon bureau, là. Bon, là, le fauteuil est pas confortable. Puis là, c'est bien dur, le stationnement. Puis là, c'est comme, bon, il fait juste me dire ça. Je sais déjà que c'est un dépendant. Les codépendants, ils me demandent comment je vais avant de commencer leur entrevue. Mm-hmm. Fait que c'est manifeste leur dualité. Fait que toutes les dualités ont un pôle positif, un pôle négatif, mais ils ont des caractéristiques et des forces contraires, puis on va faire le mi-chemin. Fait que ça, c'est le dépendant. Codépendant, beaucoup l'attitude générale par rapport à la vie.
Oui. Juste rapidement, avant qu'on saute aux autres, est-ce que... en fait, je pense que tu le disais dans « Si on s'aimait », mais est-ce que deux dépendants pourraient être ensemble puis rester sur leur nature de dépendant? Ou bien, comme tu disais, je pense qu'il y en a un qui tombe dans l'autre. Puis ouais. Ça, c'est incompatible, deux personnes qui seraient dans la même dualité.
Ils s'attirent pas.
C'est ça.
Tu sais, c'est comme deux dépendants qui sont centrés sur le gros besoin. Il n'y a personne qui va faire le lien entre les deux. Les deux codépendants vont se chamailler pour pogner la facture puis faire les choses, se prendre soin. Mm-hmm. Fait que quand on a deux dualités semblables, généralement, il y en a un qui tombe dans dépendance ou dans codépendance ou la relation n'aura pas lieu. Mais mm-hmm. naturellement, les gens, ils s'attirent leur dualité contraire.
Mm-hmm. Mais il y en a toujours un plus que l'autre qui
ouais.
fait que là, la dynamique devient ça.
Oui, puis les gens vont me dire, mais on dirait que je ne suis pas capable de m'identifier dépendant codépendant. C'est peut-être pas leur dualité dominante. Ouais. Parce que, tu sais, on a un dominant de chaque côté, mais il y a des dualités qui sont comme, ah oui, ça, c'est vraiment notre mm-hmm. couple. L'autre dualité, c'est émotif-rationnel. Ça, c'est vraiment la dualité de la communication. L'émotif, c'est un être intérieur. Il sent les affaires, il les vit, il est très intuitif, il est très perspicace, il marche au feeling. Mais quand vient le temps de le mettre en mots, il y a peu de vocabulaire. Puis, c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup. Là. Il va dire deux, trois mots, puis ça veut dire suffisamment ce que ça veut dire, avec un rationnel qui marche aux faits, aux statistiques, d'où vient l'information, qui a dit ça, explique-moi ça, parle-moi. C'est un être de beaucoup de mots, mais qui, à l'inverse, a du mal à regarder comment il se sent. Fait que là, la dualité est pareille. L'émotif apprend au rationnel comment tu te sens. Mm-hmm. Quand le rationnel dit comment il sent, il y a beaucoup moins de mots. Puis, l'émotif, mais après qu'il ait dit deux, trois mots, c'est déjà applaudissons... la situation parce que c'est un dépassement. Mais ils sont les meilleurs professeurs l'un de l'autre parce que le rationnel a beaucoup de mots en banque pour l'émotif. Puis l'émotif, ben, il est en train d'apprendre au rationnel qu'avec peu de mots, on peut dire la même chose. Mais c'est beaucoup au niveau de la communication que ça va accrocher. Fait que là, les gens vont me dire, « Ah, tu vas voir mon chum, il parle pas. Il est là, là. »
Il est à côté.
Il est à côté. Ben, on va lui donner le droit de parole, c'est ça. Fait que ça, c'est beaucoup la communication. Ensuite, on a actif rêveur. Ça, c'est dans le quotidien. C'est dans toutes les tâches à faire. L'actif, lui, il fait le ménage, puis il fait ça dans l'ordre, là. On fait le lavage, on lave, on sèche, on plie, on range. Le rêveur, lui, est parti de brasser, puis il est parti une batch de muffins, puis il a répondu au téléphone, puis il fait d'autres choses, parce que ces moments-là sont importants. Fait que l'actif, il est beaucoup dans la tâche avant de s'abandonner. Puis le rêveur, lui, c'est profitons de la vie, on passera aux responsabilités plus tard. Puis dans un couple, bien, c'est toujours aussi un conflit, dans le sens que, oh non, on ne va pas passer notre samedi après-midi à faire des tâches. Mm-hmm. Bien, il faut que ça se fasse, qui va répondre. Mais en mm-hmm. même temps, c'est comme faire l'équilibre. On est responsable, on a des tâches, mais on n'oublie pas de profiter de la vie, puis de prendre le temps de saluer le matin, puis de s'embrasser, puis d'écouter les enfants. Sinon, dans notre société, ça va tellement à 200 000 à l'heure. On est juste dans la tâche, dans la responsabilité, puis c'est pas le fun.
Mais c'est ça, mais inversement, il y a des tâches qui doivent être faites quand même. Oui. Fait que c'est ça la complémentarité du
ouais,
truc.
C'est comme un cadre dans lequel on a des tâches. À un moment donné, il faut faire l'épicerie, il faut faire le lavage.
L'actif qui parle. Hein.
Ah non, non, mais ça, ben oui, de, ouais. clairement, là, de toute évidence, sauf ouais. que,
mais oui,
c'est vrai qu'il faut que ça fonctionne en même
temps. Oui, parce que dans les extrêmes, le rêveur, il peut procrastiner sur ses tâches et les conséquences qui viennent avec, ouais. avec un actif qui dit oui, oui, mais tu sais, tout est toujours, ça finit jamais, là, à moins qu'on mange dans des belles assiettes de carton puis qu'on se promène en pyjama toute la journée, on a toujours du lavage ou de la vaisselle à faire, fait que ça arrête jamais les tâches. Mm. Il faut être capable de dire, OK, le principal est fait, allons nous amuser, allons profiter de la vie. Mm-hmm. Fusionnel solitaire, beaucoup l'intimité relationnelle, beaucoup l'intimité sexuelle. Là, le défi pour le fusionnel solitaire, préserver mes besoins personnels tout en m'occupant des besoins du couple. Souvent, les couples finissent par parler au nous. Il n'y a plus de jeu. Mm-hmm. On est allé là, on a dit ça, ils se répondent un pour l'autre, ils parlent au nom de l'autre. Ça, c'est des fusionnels. Puis les solitaires, c'est quand j'étouffe. Je peux sortir une journée tout seul. Mais oui, pourquoi tout seul? T'es pas bien avec nous? C'est pas parce que je suis pas bien avec vous. Le solitaire mm-hmm. a besoin de temps seul où il n'y a rien à faire. Il ne restera pas nécessairement passif dans le fond du divan, mais il va organiser sa journée un peu à sa guise. Il a surtout besoin de se réaliser dans tous les domaines de sa vie pour mieux revenir dans la relation et être disponible. Alors que le fusionnel a besoin d'être bien en relation pour avoir l'énergie pour aller se réaliser en dehors de la relation. Ça, ça permet d'équilibre où j'ai deux individus qui évoluent tout en donnant du temps à la relation. Fait du sens?
Mm-hmm, fait du sens.
C'est pour la... ouais. Continue.
Parce que l'autre, tout, là...
toutes ces choses-là, j'imagine que... est-ce que, dans le fond, chaque personne a une de ouais. toutes ces dualités-là? Dans le fond?
Chaque personne a une des caractéristiques de la dualité. Ouais. Fait que tu sais, je peux être un dépendant, rationnel, vite, fusionnel, et le dernier, non le moindre. Ça a l'air tellement banal, mais c'est le vite et le lent. Mm-hmm. Tu sais, dans il y a tout le temps quelqu'un qui attend sur le bord de la porte puis qui tape du pied parce que l'autre n'est pas prête ou il n'est pas prêt. Ça, ça crée des conflits. Là, juste en rentrant dans mon bureau, il y en a un qui arrive en retard. Puis là, lui, il est en maudit parce qu'elle est toujours en retard. Là, c'est leur première rencontre. Là, je me dis, bon, ça y est. Eux autres, là, c'est le conflit. Au lieu de partir avec, regarde, il y a un lent puis un vite. L'important, c'est qu'on soit là quand même, qu'on a un petit 5 minutes de retard. Mais le vite, il fait tout vite. Il parle vite, il réagit vite, il prend des décisions vite, il fait le ménage vite. Fait que, il peut laisser le sentiment de bousculer le lent, mais le lent, il est toujours bousculé. Ça va toujours trop vite pour lui. Mm-hmm. Tu sais, les gens m'ont dit, ben, on n'a pas de vol à prendre, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas mort d'homme, mm-hmm. c'est pas grave. C'est vrai. C'est toujours un peu comme on disait tantôt, l'équilibre entre, OK, moi, c'est important d'être à l'heure, d'être ponctuel. Tu peux-tu t'organiser de partir un peu plus tôt pour rusher? Que je ne sois pas l'impression que c'est moi qui te bouscule, puis on va arriver ensemble au même profit.
Ça me fait tellement rire parce que, ouais. Dans, tu sais, évidemment, là, dans tout ce que tu dis, il y a tout le temps, ouais, ça, ouais. ça c'est moi, ça ouais. c'est moi. Mais c'est, ouais.
c'est dans toutes les dualités, dans toutes les couples, dans toutes les relations. Fait que, au travail, c'est la même affaire. Les gens, ils s'associent. Fait que tu sais, tu travailles avec un associé, ben il y a bien des chances qu'il soit tout à fait le contraire de toi. Mais en même temps, c'est ça la magie. C'est comme, OK, lui, sa force, c'est ça. Moi, c'est ça. Comment on fait pour se respecter dans nos différences, avoir une communication, des actions, des responsabilités qui sont bien gérées, mais dans le respect de tout le monde. Parce que faut faire le mi-chemin, parce que deux extrêmes, ben là, on reste sur nos positions, puis ça crée des malaises, puis des conflits.
Puis juste par rapport à Vitlan, puis dans le fond, c'est quoi la différence avec Actif Rêveur? Est-ce que ça... J'ai l'impression que ça ressemble un peu.
Oui, tu as raison. C'est quoi? C'est que le rêveur puis l'actif, l'actif, il ne bouge pas si ses tâches sont toutes faites. La vitesse n'est pas vraiment importante, mais il n'est pas bien d'aller s'effoirer dans le divan, écouter une émission de télé avec son amoureux s'il y a deux verres qui traînent dans le lavabo. Il faut que tout soit fait. Mais tout n'étant une réalité pas possible, ça hypothèque le temps de qualité. Le rêveur, il dit, hey, c'est le fun. En fin de semaine, on n'a pas les enfants. On va pouvoir en profiter. Puis elle ou lui a prévu de racler les feuilles, aller changer les pneus. C'est quand ils n'ont pas la même vision. Fait qu'il faut écouter le rêveur pour être disponible émotivement à la relation. Alors que le vite est là, c'est le rythme. Fait que dans le quotidien, le vite, il se lève, le café est fait, la douche est faite, il est parti de brosser la. Puis là, il dit, ben, bon matin. Ça va. Fait que c'est beaucoup dans la vitesse. Okay. Puis le rêveur, puis le vice, c'est dans l'application des tâches.
Puis tu sais, comme PH disait, tu sais, quand on explique ça, ces dualités-là, puis qu'on les décrit, inévitablement, on se reconnaît dans certaines.
Ouais.
Puis je suis sûr que les gens...
Je suis sûr qu'il y a du monde qui ont écouté le dernier 15 minutes puis qui ont les yeux gros de même.
Ouais, qui viennent de comprendre des affaires. Je t'invite, c'est ma blonde, c'est une lampe. Ouais. Ouais, peu importe.
Mais ça va lancer des bons sujets de conversation, ben oui, je pense.
Vraiment, mais une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait un peu plus quelle barre de la...
Quelles caractéristiques on a, ouais.
Dualités qu'on est.
Qu'est-ce qu'on fait?
Tu sais, mettons, j'imagine ça...
Mais c'est une très bonne question. Ouais. Mettons, je suis indépendant, j'ai tendance à être centrée sur moi. Ma job, c'est de faire l'exercice, parce que c'est pas naturel. Puis c'est pas parce que c'est pas naturel que je n'aime pas les gens avec qui j'évolue. Mais c'est pas mon naturel. Mon naturel, c'est de me préoccuper de moi. Fait que le dépendant, maintenant qu'il s'identifie comme dépendant, c'est faire l'exercice, l'effort de me soucier des autres davantage. Les codépendants, je vais leur dire, là, prends soin de toi d'abord. Le codépendant, il prend soin de lui ou elle, il se sent coupable. Le dépendant, il prend soin des autres, mais à un moment donné, il revient à sa forme. Mais à partir du codépendant, se prioriser, le dépendant prioriser les autres. Le vite, vas-y.
Le pire dans ça,
oui,
c'est que, mettons, moi je me dirais dépendant, mettons, dans ça. Mais le pire, c'est que si je suis avec quelqu'un
qui va
prendre, qui est codépendant, mettons, mais qui va prendre le travail de prendre du temps pour elle, ben moi, ça, je vais être content de ça, mettons.
Oui.
Ça va me faire plaisir que cette personne-là aille compte ce qu'elle fait habituellement.
Absolument.
Pour s'occuper d'elle, mettons.
Oui.
Puis je vais faire mes affaires de mon bord là, après ça, puis ça va être bien correct. Là. Fait que souvent, le travail que tu fais sur toi va automatiquement plaire à l'autre, puis faire du bien à l'autre, même si la complémentarité n'est pas...
Oui, puis c'est le fun de le nommer, parce que ça encourage le codépendant à prendre soin de lui, qui naturellement se sent coupable de le faire.
Ouais.
Puis le dépendant, il se rend compte que, hey, quand je me soucie des autres... C'est donc mais le fun. Ça fait plaisir là, mais ça me fait plaisir aussi. Fait que là, il y a quelque chose qui s'enchaîne, puis on se retrouve à mi-chemin. Tu t'identifies comme un vite, toujours rétrogradé, la vitesse, ça va toujours trop vite. Tu sais, c'est comme... Fait que quand t'arrives vite, tu sais, moi, des fois, les clients me disent « Hey, c'est beaucoup de questions dans la même phrase. » Je me dis oh, « Mon Dieu, baisse le dimmer, Louis, ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis décollée, là. Tu sais, je suis curieuse. » Puis l'élan, c'est comme, OK, c'est pas lui, c'est pas la situation, c'est pas le contexte. Tu te sens toujours bousculé. Prends-toi d'avance. Tu sais, pars pas à dernière minute. Fait que, tu sais, un lin va dire, j'ai un gros 10 minutes. Tu sais, un gros 10 minutes pour le vite, c'est déjà en retard. Tu comprends? Fait que, juste, OK, je suis lent, je me prends d'avance pour me sentir bousculé. Je suis vite, je ralentis parce que je suis toujours trop, mais pas d'avance. Actif rêveur. Est-ce important que la vaisselle dans le lavabo soit directement mise dans le lave-vaisselle au détriment de mes enfants, de mon amoureuse, de mon amoureux qui me réclame du temps? Puis le rêveur, c'est comme, il vit dans l'attente. Il a toujours espoir de quelque chose, mais il le dit pas. Fait que le rêveur, c'est ce week-end, j'aimerais ça qu'on prenne du temps ensemble. J'aimerais ça que les responsabilités, là, on les fasse si ça te fait plaisir, mais que samedi après-midi, c'est notre après-midi. Généralement, la personne, elle va dire, ben oui, pas de problème.
C'est juste de le nommer. Dans...
Oui, parce que le rêveur, ça va de soi, lui. Il faut profiter de la vie. C'est banal, la responsabilité. Mais il le nomme pas. Émotif, met des mots. Ben oui, mais c'est clair. Non, non, c'est pas clair. C'est clair pour toi, c'est pas clair pour l'autre. Mm-hmm. Puis l'autre, c'est arrête de parler. Écoute, les motifs, ils parlent quand on les laisse du temps. Mm-hmm. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que c'est comme, maintenant que je m'identifie, je fais un pas dans la direction de l'autre. Mm-hmm. Tu es plus clair?
Ouais, ben,
oui, oui, oui. Okay. Dans le fond, le but, c'est-tu d'être un peu le plus possible dans le milieu ouais. du spectre de ces dualités-là, dans le fond?
Le but, c'est l'autonomie affective. Parce que ça, c'est des manifestations que j'ai développées par incapacité de voir à mes besoins à la base. Mm-hmm. Fait que j'ai développé toutes sortes de comportements qui ont fonctionné. Ça fait comme, hey, moi, quand je tape du pied puis je dis « je veux », ça répond. Continuez. Hey, moi, mes besoins, ça a l'air, c'est pas important, mais quand je m'occupe des autres, ça me fait du bien. Je vais le faire. Puis là, ça a fonctionné, là. Mm-hmm. Mais ça fonctionne plus. Fait que le but, le mi-chemin, il me permet de dire, j'ai des besoins, j'ai des limites, j'ai des inconforts, je les nomme, on est entre nous, on se respecte, puis on fait quelque chose de constructif, on fait équipe. On mm-hmm. est ensemble pour créer quelque chose parce que tu as des forces extraordinaires qui sont mes faiblesses et vice-versa. Puis là, on va avoir le meilleur des deux. Fait que c'est l'autonomie affective, dans le fond.
OK. Puis est-ce que les dualités, c'est tout le temps par rapport... C'est-tu un absolu ou c'est tout le temps par rapport à l'autre, tu sais, mettons, par rapport à quelqu'un d'autre? Est-ce que tout le temps, je suis le dépendant de cette relation-là ou juste je suis dépendant?
Je suis dépendant. Okay. Fait que là, il fait pas beau, puis là, je suis au bout parce qu'il fait jamais beau, puis là, il part, le dépendant. Il se passe à rien, il est tout seul dans son univers, là. Mais il est contrarié, puis il a des malaises, puis il est envahi, puis il n'y a pas... Fait que c'est sûr qu'il se rencontre un être humain, en l'occurrence, un codépendant qui l'écoute, ça dure 20 minutes. Comment ça va? Brrr, tout va sortir. Le codépendant, c'est comme, hey, OK, qui aurait besoin? Hey, c'est vrai, il faudrait que... Il cherche toujours à assouvir l'autre dans ses besoins.
Puis, mais est-ce que je pourrais, mettons, être dépendant dans ma relation de couple, mais le codépendant de ma relation d'affaires? Mettons?
Excellente question, oui. Parce que dans différents domaines, je peux changer de dualité. Il y en a qui sont codépendants partout. Ils sont très fatigués. Mm-hmm. Il y en a qui sont dépendants partout. Ils sont très envahis par leurs besoins. Mais effectivement, il y en a en relation amoureuse, ils sont dépendants, mais à leur travail, ils sont codépendants. Mm-hmm. Il y en a qui sont vite à la job. Fait que ça dépend avec qui tu es jumelé. Tu sais, des fois, tu n'as pas le choix. Fait qu'il y a des gens, par exemple, qui sont très émotifs, qui sont lents, mais tu sais, quand on va travailler, là, comment tu te sens, la lenteur, c'est pas très encouragé. Mm-hmm. Fait qu'au travail, ils sont très efficaces, ils sont très productifs, mais dans la vie, quand ils peuvent se le permettre, leur nature profonde réapparaît. Fait que oui, on peut changer tout dépendant du contexte dans lequel je suis, puis tout dépendant de la dualité dans laquelle je négocie avec les autres êtres humains autour.
Moi, j'ai de la misère à la plupart. C'est pas clair pour moi, mettons, de quel bord du spectre je me trouve. Okay, certains est-ce que plus que d'autres, mais...
Dépendant qu'au dépendant. Mettons, je t'aide rapidement. T'entends-tu?
Toi, c'est clair pour toi?
Ben, moi, vis-à-vis moi, c'est extrêmement clair.
Je trouve
clair.
Que toi, c'est facile. Ouais. Non, mais c'est vrai, je trouve que toi, c'est comme... Tu lis des descriptions...
Mais toi, ça, peut-être que toi, ça varie selon...
peut-être ça varie de la relation.
La relation
ou je sais pas, peut-être que c'est... Je suis moins
Il y en a une couple que c'est facile quand même. Là.
Ouais.
Si tu peux être préoccupé par tes besoins et les besoins des autres?
Je dirais mes besoins.
OK, dépendant. Est-ce que tu es un vite ou tu es un lent?
Je dirais vite parce que j'essaie toujours de faire le plus d'affaires possible.
Tu es vite.
Ouais.
Tu es émotif ou rationnel? Tu es un homme de beaucoup de mots ou tu es un
moi,
homme.
Moi, je n'irais pas vite aussi clairement que ça. Tu sais, mettons, c'est pas rare, mettons, qu'on part d'une place puis tu as encore une brosse à dents dans la bouche avec genre en train de finir deux, trois affaires.
Mais
parce
c'est ça,
que...
mais c'est à cause j'essaye de finir deux, trois affaires parce que je veux faire le plus d'affaires possible. Fait que je vais être vraiment juste ou en retard, mais à cause que
faut que je
fasse le plus de choses, tu sais.
OK, fait que ça te rend lent, finalement.
Ouais.
C'est ça. j'aurais plus tendance à dire ça, ouais.
OK, fait que dans le fond...
c'est drôle, ce jeu-là.
on va faire tout après.
T'es-tu rationnel ou émotif?
Ben... Certaines personnes diraient, mettons, ma blonde dirait que je suis émotif, puis il y a du monde avec qui je travaille qui dirait que je suis rationnel, vraiment rationnel.
Fait que ton émotif, qui fait 50 affaires en même temps, il se brosse les dents, puis il check un peu de nouvelles, puis il écoute une autre affaire, puis sa tosse, ça vient de lever, te ralentit. Fait que t'es un lent. Parce que tu marches au feeling, là, tu vois, attends une minute, j'ai donc ben des dossiers ouverts.
Ouais.
Fait que c'est ça qui me confirme que t'es lent, dans le fond. Parce que t'es comme un enfant. Oh, puis écoute, un petit peu bonhomme. Ouais. Là, oups, son pyjama. Oh, son running. Ça a pris 4 heures. Tu sais, mais c'est parce que tu marches au feeling, fait que t'es lent.
Ouais.
Ça sonne un peu comme toi.
Fait que t'es dépendant, émotif, lent. Ouais. Quoi d'autre? Actif, rêveur.
Mais il est quand même.
Mais au travail, peut-être qu'il est différent.
Non, mais même t'es quand même rationnel. Mais je pense que t'es un rationnel qui parle pas trop, là. de ses émotions, mettons. Là. Tu sais, la dualité rationnelle-émotif, tu sais, il est vraiment rationnel sur plein d'affaires de comme. T'es super cartésien sur, mettons, les études, puis ces choses-là, puis la science, puis ces trucs-là. Sauf que tu dis, parles pas de tes émotions, ben non plus. Là,
est-ce qu'ils sont clairs, tes émotions, pour toi?
Es-tu
clair comment tu te sens, mettons, sans être capable de le nommer?
Ouais, mais c'est assez. C'est assez égal, dans le sens que. C'est rare qu'une journée, je vais être vraiment triste ou qu'une journée, je vais être...
Oui, mais... c'est pas nécessairement dans l'expression, mais c'est parce que probablement, lui, il te voit au niveau du travail, puis peut-être qu'au niveau amoureux, il est différent.
Ben, c'est sans aucun doute. Là.
C'est probablement ça.
Ouais.
Puis c'est peut-être tes champs d'intérêt qui sont très cartésiens et intellectuels, mais en fait, en relation, quand tu t'exprimes, est-ce que tu es un être de peu de mots ou tu es un être qui s'exprime librement et facilement? C'est là que ça va le déterminer.
Je dirais un être qui s'exprime librement et facilement.
OK. Fait que t'es plus rationnel, dans le fond.
Moi,
fait que les
ça.
Rationnels, ils sont très sensibles. Là. C'est pas... Les rationnels, c'est pas des pierres, puis c'est pas des gens, pas de cœur.
Ouais, ouais.
C'est juste que quand ils s'expriment, c'est des mots qui sortent au lieu que ce soit une émotion. Ça t'aide-tu à clarifier?
Moi, je dirais plus ça, là.
Ouais, rationnel.
Fait qu'un dépendant, rationnel, lent.
Ouais.
C'est quoi qui reste? Actif, rêveur. T'es-tu un amoureux, un lover?
Ouais.
Puis vite, qu'est-ce qu'il y a? Fusionnel solitaire. T'aimes-tu ça passer du temps cocooning ou t'aimes plus faire toutes tes affaires puis rentrer à la maison puis être content de retrouver ta blonde? Je caricature rapidement, là, mettons, là, mais...
Ça, c'est pas clair. Parce que quand j'étais avec ma blonde, je suis très fusionnel.
Ouais.
Mais on peut être des longs bouts sans être ensemble aussi, là, tu sais.
Puis toi, t'es bien parce que tu te réalises dans ta job, ouais. Tu vois tes amis, tu vois ta famille, tu fais tes activités... Puis t'es bien de faire ces affaires-là sans
ben, elle. Ouais, mais c'est principalement le premier point, là, la job. les amis, la famille, c'est moins présent un peu. Là.
OK.
Mais ouais, c'est surtout ça.
Fait que quand t'es là, mais t'aimes ça te réaliser dans les autres domaines de ta vie.
Ouais.
Parfait. Ouais. Fait que c'est probablement plus un solitaire. Mais quand t'es là, t'es là.
Ouais, quand je suis là.
C'est plus clair?
Ouais.
Puis tu sais,
ouais.
Un peu comme on disait tantôt, c'est en s'observant. Puis il y a des caractéristiques, des dualités, c'est clair. C'est comme, oh, moi, je suis vraiment indépendant. Il y a des couples, là, même moi, j'arrive pas à cerner c'est quoi. Mais clairement, ils sont des vite et des lents. Puis ça, là, ça crée des problèmes dans tous les domaines de leur vie. Il y en a que c'est émotif, rationnel. Là. Ils chicanent dans mon bureau, plus ça explose. Puis... Mais les autres, c'est pas clair. Fait que probablement qu'il y a une dualité qui est dominante, mais on devrait être capable de se retrouver un peu dans chacun.
C'est ça, tu sais, parce que j'ai lu, en fait, le tome 1 là, de ton livre, puis, tu sais, il y avait des points que je me reconnaissais souvent des deux côtés, puis, tu sais, peut-être rêveur, c'était un peu plus clair, mais tu sais, c'était quand même rare que je me disais, ça, c'est vraiment, moi, je suis vraiment extrême ça, là,
ouais.
Tandis que je me disais, des fois, PH, il est extrême ça.
100%.
Ouais.
Moi, c'était même pas difficile à trouver mes affaires, là, tu sais. Puis le pire, moi, mettons, en entendant tout ce qu'on parle depuis tantôt, puis en ayant expérimenté ça aussi dans plusieurs relations, dans quelques relations, ce qui crée les conflits, au final, c'est souvent une différence... Du moins de mon expérience, c'est des différences maintenant que je suis capable de nommer, mettons, grâce à ce qu'on vient de parler là.
Ouais.
Sauf qu'ils sont tellement. C'est tellement des petites affaires qui, dans la grande échelle de la vie, sont
pas importantes.
Tu sais, juste le.
Mais c'est souvent comme ça, PH. Les gens me disent, hey, on s'est pogné, là. Ça fait 3 jours qu'on est là-dessus. Et souvent, ils se rappellent même pas pourquoi. Ils savent pas. Ça a déclenché. C'est une banalité qui a déclenché quelque chose à l'intérieur de soi, mais souvent, c'est comme ça.
Peut-être même l'accumulation de plusieurs banalités. Là, parce que, mettons, on parle de actif et rêveur, mettons. Là, moi, je suis vraiment plus actif. Puis, mettons, juste l'exemple de la vaisselle, c'est l'exemple la plus conne au monde entier parce que c'est tellement bénin, c'est tellement minime, sauf que... Je peux même pas compter avec mes 10 doigts le nombre de fois où est-ce que c'est devenu un enjeu.
T'as pas assez de doigts.
J'ai pas assez de doigts. J'ai pas assez, ça je voulais dire. Je l'ai peut-être mal formulé. J'ai pas assez de doigts pour compter le nombre de fois que c'est devenu un enjeu dans une relation.
Les filles, c'est comme, on laisse faire ça.
Ah oui, c'est ça, exact.
Souvent, là, je dis à ces actifs, là, pour ne pas dire ces hyper actifs, parce que quand, hey, tu sais, si j'étais le dernier moment avec ta blonde, avec ton chum, là, tu vas tant vouloir que la vaisselle a priorisé. Mais l'actif, il est vraiment là. Il est bien quand tout est fait.
Je suis pas capable de me poser.
C'est ça.
Si tout est pas fait. C'est ça qui se passe.
Puis le défi, c'est de se poser, même si les choses sont pas faites. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu disais tantôt, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va à l'envers. C'est ça, briser le pattern. C'est comme moi, naturel, c'est que les choses sont faites. Quand elles sont faites, je peux me déposer. Mon naturel, c'est que je pars 50 dossiers, puis là, je suis un peu rushé, puis j'arrive à la dernière minute. OK, on fait les choses différemment. Puis là, c'est sûr que c'est pas naturel. C'est contre nature, mais en même temps, ça donne des résultats le fun. Mmh. Puis là, on finit par équilibrer un peu l'affaire.
Ouais. Mais je comprends, tu sais, mettons que justement, t'es vraiment d'un côté. Je comprends d'où peut venir l'attirance pour quelqu'un qui est différent de toi.
Ouais,
parce
oui,
que justement, ça.
Ça complémente.
Ça complémente, puis ça t'impressionne même. Quelqu'un qui est capable d'être super rêveur, qui est capable d'être super, tu sais, mettons, tout est introverti, l'autre est super extroverti, tu trouves ça beau, tu trouves ça. Mais au final, ça peut aussi être, puis ça va être ce qui va mener
à créer
un conflit.
Oui. Fait qu'au début, c'est le fun parce qu'on a un regard d'ouverture et d'accueil. Mais à un moment donné, la dualité, elle prend trop de place. Quand ça va être le temps de négocier, là, qui a raison. Puis là, c'est là qu'il faut comme faire preuve d'ouverture dans la différence de l'autre, comprendre l'autre comme il se comprend, puis après ça, être capable d'avoir une conversation. C'est pour ça que j'aime bien parler du rituel amoureux où, au lieu que ce soit à tout moment, dans la journée, puis on s'accroche, puis on accumule, puis on est plein de non-dits, pourquoi on fait pas le point une fois par semaine? Mm-hmm. On a une date. Tu sais, au début de notre relation, on est dans des dates, puis on a du fun. Puis, ben oui, on arrive disposé, fraîchement douché, de bonne humeur, on est heureux, on est full enthousiaste, on est parfumé ou pas, tu vois?
Ouais.
Puis là, on est surtout, avant tout, on donne sur des exemples un peu extérieurs, mais intérieurement, c'est comme j'ai hâte de savoir comment tu vas pour vrai. Maintenant, on le perd parce qu'on tombe dans le quotidien, puis on tombe dans nos responsabilités. Fait que peut-être juste avoir un rituel de « Hey, comment ça se passe pour toi cette semaine? Comment tu vas? » En dehors de « Faut pas oublier d'aller faire les courses, puis aller chercher la luge pour en fin de semaine, puis aller chez les beaux-parents. » Comment on Puis ça, ben, ça permet de faire le point, puis de ne pas être dans des extrêmes comme ça.
Pas accumuler du non-dit aussi. Ben oui. Tu sais, comme cette semaine, j'ai-tu fait de quoi qui t'a dérangé? Y a-tu quelque chose qui a accroché?
Oui.
Ou tout est beau? Tu sais, comme ça, juste faire un petit checkpoint pour être
c'est
sûr
que. C'est dur de faire ça. C'est dur de faire ça. Moi, j'ai déjà voulu prendre un moment pour faire une date dans une relation de longue haleine. Fait que de faire, OK, nous autres, on fait au moins une date par semaine.
Oui,
notre date night, on s'en va au resto, on se garde. Là, tu arrives au resto, puis c'est les préoccupations. Préoccupations du quotidien qui deviennent le sujet de conversation, puis c'est pas vraiment les individus, tu sais. Puis là, ça fait que la date est comme gâchée. Tant qu'à ça, on serait resté chez nous, on aurait fait la même chose qu'on fait tout le temps, tu sais, parce qu'on tombe dans le pilote automatique.
C'est pas aller dans les tâches, parce que, tu sais, quand une première date, là, on se parle pas de nos tâches.
Non, c'est ça.
Écoute, j'ai changé mes pneus aujourd'hui, tu sais, c'est. On parle pas de ça.
Ouais.
C'est comme, mais c'est ça, c'est l'exercice. C'est comme on se préoccupe de comment on se vit, comment on se sent. Tu sais, comme tu dis, t'es-tu dérangé, t'es-tu irrité? Ouh, puis tu sais quoi? Au contraire, ça peut être, hey, cette semaine, c'était vraiment le fun. Tu sais, là, quand t'as fait telle chose ou t'as eu telle attitude, ça m'a tellement fait du bien. Quand t'as dit telle affaire, ça m'a tellement. Ça aussi, on passe à côté de s'arrêter et de dire, c'est donc bien agréable que tu viens de me dire. C'est donc bien le fun, le regard que tu poses sur moi, tu sais. Parce que s'arrêter pour se faire une mise à jour, c'est aussi faire la mise à jour par la positive. Ça, on le fait peu.
Mais tu sais, mais est-ce qu'au final, tu sais, tu dis justement, les deux côtés d'une dualité vont s'attirer, mais est-ce qu'on n'est pas mieux de trouver quelqu'un qui est plus proche de nous au niveau des dualités pour qu'il y ait moins d'accrochage puis qu'on soit plus pareil sur plein d'affaires ou pas nécessairement?
Là, il faut être pareil. Parce que moi, ce que je constate, c'est que naturellement, les dualités s'attirent professionnellement, amicalement, amoureusement. Mm-hmm. Mais ce qu'il faut qu'ils soient pareils, c'est les valeurs, les intérêts, les activités. Ça, on s'en sort pas. On peut pas aller dans des dualités où on est en conflit. Mais quand les valeurs...
Ça, c'est externe aux dualités, dans le fond.
Oui, c'est ça. Quand les valeurs, les intérêts, les activités sont sensiblement communes, ben J'ai le goût de comprendre l'autre, comment il se comprend. J'ai le goût d'apprendre à voir comment ça fonctionne. Puis si je comprends cette différence-là qui nous unit, mais en même temps qui nous distancie, bien, c'est comme, comment tu fais pour te sentir coupable, facile de même? Moi, je le comprends pas. Puis tu vois, comment ça, t'es donc bien intolérant par rapport à... Puis là, on se parle. Mais là, c'est comme, OK, ça me permet de comprendre.
Ouais.
Pourquoi c'est donc bien important que tout soit fait pour toi? Parce que, peu importe, fait que c'est pas tant le comportement que qu'est-ce qui est sous-jacent, parce que c'est ça l'autonomie affective. C'est, OK, toi, pour être bien, t'as besoin de ça? je suis pas obligée de comprendre. Je peux juste comprendre que pour toi, c'est important. Tu sais, on approche de Noël, là. Bon, c'est important pour toi. Je suis pas obligée de comprendre. Je suis même pas obligée d'avoir la même emploi, mais c'est important pour toi parce que je me soucie de tes besoins. On va aller dans la même direction. Mm-hmm. Plus, ça adoucit tout.
Y a-t-il une limite au compromis qu'une personne peut faire? Tu sais, y a-t-il à m'amener tellement aller loin dans comprendre l'autre que c'est trop, là, c'est, tu t'écoutes plus toi-même, finalement.
Ben oui, puis ça, une limite, c'est quelque chose qui se ressent, c'est pas quelque chose qui se décide. Une limite, c'est intérieur. Fait que ça se définit par chacun des individus. C'est clair que quand il y a de l'abus, il y a de la violence, c'est tolérance zéro. Ouais. Mais tu sais, quand on a l'impression qu'on est allé au bout de quelque chose, puis qu'on est seul dans la démarche, tu sais, je donne souvent, quand tu rentres seul dans un canot, tu tournes en rond, tu sais. Fait que quand on atteint cette limite-là, je pense qu'il faut la nommer, il faut l'exprimer. Comme moi, j'ai l'impression que je suis allée au bout de mes capacités, on fait équipe, on essaie de trouver des solutions où ça s'arrête, mais c'est intérieur. Fait que c'est la personne qui elle-même va décider, ah, je suis plus capable, je suis allée au bout, ça fait non en dedans, ça fait c'est assez. Puis ça, c'est après 3 semaines, 3 mois, 3 ans, 13 ans, ça, c'est l'individu qui décide. Mm-hmm. Tu sais, mais il faut être dans le respect de soi-même, puis c'est pour ça qu'il faut être attentif à comment je me sens. Je suis en train de dépasser mes limites. Puis ça, c'est le défi souvent de certains individus où ils sont toujours en dépassement, mais à leur propre détriment, tu sais. Mm-hmm.
Est-ce que des fois... Moi, je vais parler d'expérience. Moi, on dirait que je suis inévitablement attiré par des personnes que... Non, mais par le...
Il est fasciné par ta capacité d'ouvrir.
Par le même type de personnes.
Oui, c'est les patterns.
Puis des personnes souvent qui, quand on regarde les dualités, sont à l'extrême de ma dualité à moi. Puis qu'à chaque fois que je sors de ces relations-là, je me dis tout le temps, ah, la prochaine fois, là...
Je me ferai pas prendre.
Je vais prendre quelqu'un qui est... Ben, maintenant que je le nomme de même, je le disais pas de même à ce moment-là, mais je vais prendre quelqu'un qui est dans mes dualités, là. Parce que là, c'est impossible, tu sais. Puis... J'ai l'impression que c'est ça que je veux, mais inévitablement...
C'est pas ça que t'attires.
C'est pas vers là que je vais automatiquement, tu sais.
Fait qu'au lieu de travailler sur repérer la bonne personne qui ne te fera pas vivre ça, toi, d'emblée, quand tu t'investis dans une nouvelle relation, travaille tout de suite le dépendant, le rationnel, celui qui veut que tout soit fait. Fait que là, ça va désamorcer parce qu'un nourrit l'autre.
Ouais, c'est ça qui arrive. Moi, c'est ça qui arrive.
Au lieu de travailler sur... Fait que si tu fais tout, tu vas t'attirer quelqu'un qui rêve puis qui attend que t'aies fini. Mais si tu dis, OK, moi, ça, c'est mon pire, je fais rien. Ça, je le laisse là. Ça, je le choisis. Fait que ça, on a plus de pouvoir. On a moins l'impression qu'on subit les choix qu'on fait. Puis naturellement, si je sors de mon extrême de ma dualité, puis j'attire l'autre à faire un mi-chemin, puis ça désamorce un peu plus. Fait que travaillons sur soi au lieu de dire, bon, je suis en train de choisir la bonne personne, puis la bonne... On n'a pas de contrôle. Il y a mille et une façons que ces dualités-là s'expriment. Puis les patterns, c'est ça, c'est même si on travaille très fort... On va se l'attirer. C'est comment je vais faire la différence dans mes attitudes que je vais avoir des meilleurs résultats.
Parce que c'est vrai que si... C'est clair que si toi, tu fais un chemin, pour que ça fonctionne, il faut que l'autre personne fasse un chemin aussi. Tu sais. Fait que c'est vrai que si tu commences par faire le chemin toi-même, chose que...
Ça va désamorcer de l'autre côté.
Ouais. Ah, mais écoute, ça c'est c'est life-changing.
Mais toi, tu dis que t'es dépendant, mais j'ai l'impression dans tes relations, t'es plus codépendant. T'es plus celui qui s'occupe de l'autre, là, tu sais, beaucoup, là. Qui donne. Non?
Ben non, je pense pas que je fais attention à l'autre, nécessairement.
Mais je pense que... Je vois ta réflexion. C'est qu'il y a des dépendants qui sont très, très gentils d'en prendre soin des autres. Mais la motivation n'est pas la même qu'un codépendant. Un codépendant est vraiment gentil naturellement, sans compter, sans attendre. Le codépendant très gentil, il fait un peu pour son propre bénéfice, c'est-à-dire que ça lui donne de la reconnaissance et ça lui fait du bien. Fait que ça nourrit encore ses besoins. Fait que des fois, c'est vrai que c'est plus difficile. Fait que j'ai l'impression que tu es peut-être un peu dans cette catégorie-là.
Ben comme... Moi, c'est plus mes besoins avant ceux des autres.
C'est très assumé, c'est très
Non, mais par rapport à ça, c'est 100%. Là,
mais, voilà. Mais il prend soin quand même des autres, mais c'est pour son propre bénéfice.
Ouais.
Tu vois la différence?
Ouais, je comprends.
Mais c'est qu'après ça, je pense qu'il ne faut pas mélanger nécessairement ça avec actif versus rêveur, où est-ce que actif va faire des actions, au quotidien qui sont pas qui prend soin de l'autre, mais dans le fond, tu sais,
il prend soin de lui.
Faire le lunch, là, pour le couple, tu sais, faire la cuisine, c'est une tâche qu'il faut qu'il se fasse, là. Tu sais, c'est pas nécessairement.
C'est
je l'actif. Le fais pas nécessairement par. Non, exact, c'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Je le fais pas nécessairement par altruisme de vouloir combler un besoin de l'autre personne, mettons. Là. Mm-hmm. Je pense.
Ouais, je comprends.
Ouais. Mais non, mais crime, c'est fascinant, honnêtement. Puis je suis sûr que...
Puis c'est un processus sans fin. C'est ça qui est fascinant parce qu'on évolue, comme je disais tantôt. Donc, mes besoins changent. Il y a des besoins qu'on a à certaines périodes de nos vies qui sont non négociables. Même ça fait, hey, c'est important. Mm-hmm. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est plus ça qui est important. C'est pour ça qu'il faut toujours être attentif à soi. Parce que des fois, on reste pris sur des situation des attentes, puis dans le fond, est-ce que c'est vraiment ça, que ce soit ma sexualité, que ce soit le type de relation amoureuse que je veux? Puis ça, c'est même si je suis dans la même relation ou j'ai différentes relations, il faut juste toujours s'assurer que notre relation évolue en fonction de mes nouveaux besoins, puis des besoins de l'autre. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que c'est un processus sans fin. Il n'y a personne qui peut dire, hey, moi, je suis arrivée à l'apogée de mes besoins. Mmh. Je suis tellement pleinement et naturellement... Mais non, parce que ça change. Puis, mais tu sais, il y a des besoins qui se priorisent. Puis souvent, j'invite les gens à faire, OK, on travaille un besoin. Parce que là, on les a toutes. On veut toutes, là, être reconnues, être aimées, être libres, être sécurisées. Mais c'est lequel qui est le plus important à cette étape-ci de ma vie? Mm-hmm. Mm-hmm.
Puis, oh, tu sais, on parlait de pattern, justement. Puis, tu sais, dans l'émission aussi, tu sais, il est souvent question de défaire les patterns.
Ouais.
Comment est-ce qu'on sait qu'un pattern est négatif, mettons? Puis comment qu'on le fait pour le travailler là-dessus?
Un pattern, c'est une blessure à la base. Un pattern, c'est un comportement répétitif que j'utilise pour contourner une blessure. C'est-à-dire qu'il y a une émotion que je vis, je développe un comportement, ça fait que j'ai des mécanismes de défense, des attitudes défensives. Là, je suis pris dans mon pattern, mes besoins restent inassouvis, puis là, je roule. Alors, on le sait que c'est un pattern parce que c'est souffrant. J'ai toujours la même blessure qui est déclenchée, mais au lieu de dire « je me sens rejetée, je me sens seule, je me sens pas entendue », j'adopte un comportement action-réaction. Là, on le sait déjà que ça va donner. Ça veut dire « rien ». Là, au lieu de faire action-réaction, ce qui est naturellement à l'intérieur de moi inscrit quand je suis en relation puis cette blessure-là ou ce malaise est accroché, là, je vais le nommer. Je me suis sentie rejetée, je m'ennuie, c'est inconfortable. Puis là, c'est sûr que ça ne veut pas dire que l'autre a la responsabilité de répondre à mon besoin, mais moi, je viens de sortir de mon mécanisme qui fait que je suis toujours dans une affaire action-réaction sans, en plus, n'avoir jamais satisfaction de mon besoin. Fait que le nommer, l'exprimer, puis aussi voir comment moi, je peux répondre à ce besoin-là. C'est pas juste l'autre personne. Moi, j'ai une responsabilité aussi de me mettre dans des environnements sécurisants où je suis reconnue, où je suis appréciée. Où... Parce que le pattern, il me suit partout, là. Mm-hmm. Fait que si je me sens d'une telle façon, de façon inconfortable, c'est comme je constate que dans tous les domaines de ma vie, on dirait que ça me suit, mais c'est un fait. Ça me suit. Comment moi, je peux faire pour aller dans des besoins satisfaisants. Tu sais, par exemple, les gens qui sont dans le rejet, on travaille sur le contraire. Je ne veux plus me sentir rejetée, mais je suis un défi, OK? Je veux me sentir reconnue, c'est ça le contraire. Où et qui m'aide à me sentir reconnue? Qui m'aide à me sentir bien? Souvent, c'est inconfortable, on n'est pas habitué, on n'est plus habitué dans je suis dans le rejet, je sais comment ça fonctionne, puis je sais comment réagir, puis je sais comment me défendre. Plus dans le rejet, je fais juste dire merci, juste recevoir. Puis là, on développe la capacité de vivre dans un environnement qui répond plus à ses besoins. Mm-hmm. C'est clair?
Oui.
Parce que je suis avec mes mains.
Oui, oui, ah oui. Ben,
c'est comme plus comme c'est auditif. Okay.
Puis, j'imagine que ça aide de comprendre d'où qui provient le pattern, dans le sens que si tu viens, d'une blessure, c'est comprendre c'est quoi cette blessure-là, si tu l'enfance, si tu les parents, si tu sais, si ça.
Ça peut aider, mais tu sais, à partir du moment où la blessure est là, l'origine, ça fait la même, ça a le même elle impact même, au niveau relationnel. Okay. Fait qu'il y a des gens que. C'est pas nécessairement important pour eux. Puis moi, comme je travaille pas nécessairement dans toute la reconstruction, mais plus de l'accompagnement éducatif, c'est comme, OK, c'est ça ta blessure. Ton besoin, contraire à cette blessure-là, c'est là. Va vers ces situations-là, va vers ces individus-là, va vers ces environnements-là où tu te sens reconnu, aimé, apprécié. Puis c'est un défi en soi, parce qu'on s'attire naturellement en disant, oui, je suis toujours en train d'en faire plus que les autres. Puis j'ai tant l'impression que je suis mis à part. Puis c'est comme, bon, déjà vu. C'est ça le pattern. C'est inévitable. Mais ce qui est possible de changer, c'est comme, OK, moi, je me sors de là, je nomme les affaires, j'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin d'une augmentation de salaire, j'ai besoin qu'on se parle de la répartition de nos tâches, j'ai besoin qu'on se parle de notre sexualité. Les gens n'ont pas ce réflexe-là. Ça va de soi, on jase entre nous, ça a tellement l'air facile.
Ouais.
Dans les faits, c'est comme, on dirait qu'on se parle juste la ça, ça crée un malaise. Oui.
Ouais. Il y a quelque chose que tu as dit tantôt sur lequel je veux qu'on revienne. Tu as dit... En vieillissant, on s'améliore, mais on ne change pas vraiment. Mm-hmm. Puis ça, moi, mes parents se sont séparés après 32 ans de mariage. Puis les deux m'ont dit une variation de quelque chose comme, au final, on n'a pas changé. T'sais, les affaires qui nous énervaient
au début,
c'est les affaires qui ont fait que ça n'a pas marché.
32
ans plus tard, une famille au complet. Puis, tu sais, finalement, somme toute, selon la normalité de notre société, une relation à succès, là, tu sais. Mais quand même, que 32 ans plus tard, les affaires qui dérangeaient au début sont les affaires qui ont fait que ça n'a pas marché. C'est-tu toujours ça? Parce que, tu sais, des fois, moi, je rentre dans des relations, des fois, puis je me dis, ah, tu sais, le fameux quand ça va être réglé ou quand ce conflit-là va être changé ou quand...
Ça va être la totale.
Genre, ah, là, elle va finir par arriver à l'heure, tu sais. Mettons, là, non, mais mettons que je veux garder cet exemple-là, là, tu sais, des affaires, c'est... Ah non, mais là, elle m'a dit que ça allait changer, puis moi, je veux que ça change. D'expérience, ça n'a jamais changé.
Non.
Ça n'a jamais fonctionné, cette attente-là de... Quand ça va être réglé. J'imagine que ça, tu le vois aussi dans des consultations, des gens qui pensent que le problème est en surface, une petite affaire, mais qu'au final, c'est ce qui est en dessous, tu sais, qui est la nature du problème.
C'est un bel exemple, la ponctualité, mais c'est comme... Ça, c'est un détail de la vie. Il y a des gens pour qui c'est non négociable. Alors, si c'est non négociable, puis tu te rends compte que t'es quelqu'un qui a du mal à le respecter, c'est sûr que ça va créer conflit. Mais... Quand je parlais des valeurs, des besoins, c'est comme dans l'ensemble de la relation, est-ce que c'est vraiment important ou on est en train de mettre le point sur quelque chose qui nuit au reste de la relation? Fait que c'est pour ça que c'est important de définir quels sont mes besoins à cette étape-ci. Fait que maintenant, on prend la ponctualité, tu dis, hey, cette relation-là est tellement satisfaisante à ce point de vue-là, à ça, on a tellement de belle complicité, mais je suis dérangée par sa non-ponctualité, je vais toujours l'être, mais j'ai plus d'accueil pour ça. Mais c'est pas vrai que ça fait comme, no problem, ça marchera pas.
Ça arrivera jamais,
non.
Ça. Là.
Tu vas toujours être dérangée, mais tu vas peut-être moins donner de l'ampleur, tu vas peut-être mettre moins d'accent là-dessus parce que tu vas bénéficier de tout le reste. Mm-hmm. Mais si c'est non négociable pour toi, tu sais, par exemple, bon, moi, je veux pas être quelqu'un qui... Mon client me dit, je veux pas être quelqu'un qui fume. Mais oui, mais elle fume. Oui, mais elle va arrêter de fumer. Là, tu t'en vas dans un combat.
C'est ça.
Il est possible que... Oui, les gens peuvent arrêter de fumer, mais il est possible que non.
Mm-hmm.
Tu sais, j'ai un client qui est allergique, hautement allergique aux chats. Elle a 3 chats. Elle ne choisira pas toi au-delà des chats. Ouais. C'est comme, on s'en va déjà dans le mur.
Ouais.
Fait que c'est comme... Tu peux bien te tenir là, sur tous les médicaments qui vont t'empêcher, mais as-tu vraiment envie de ça? Faisons des constats, oui. Là, je donne des exemples extrêmes, mais c'est comme, qu'est-ce qui est important pour moi? Bon, elle n'est pas ponctuelle, mais alors on a les mêmes valeurs, nos enfants s'entendent bien, notre sexe, je dis n'importe quoi, c'est correct, mais c'est vraiment l'importance de mes besoins, mes valeurs à cette étape-ci, sinon ça va être tout le temps quelque chose qui va nous accrocher. Fait que dans l'exemple que tu donnais de 32 ans de mariage, si c'était des besoins extrêmement importants qui n'ont pas été assouvis, puis 32 ans plus tard, ils refont surface, puis je suis encore avec le même besoin, ça explique pourquoi la rupture se pointe.
Puis, est-ce que tout ce travail, ou à un moment donné, des fois, la conclusion, c'est mieux pour tout le monde que la relation se termine là?
Bien, s'il n'y a plus d'amour, s'il n'y a plus d'énergie à mettre dans la relation, si la motivation est moindre, souvent les gens vont faire le constat comme on s'adore, on est beaucoup attachés, on a beaucoup d'affection l'un pour l'autre, mais on n'a plus suffisamment d'amour pour aller plus loin. Puis sinon, il y en a d'autres, c'est comme, hey, non, nous autres, là, on s'aime comme des fous, mais en même temps, on manque d'outils. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment de où on est, ça dépend de ce que la relation a laissé aussi. Puis ça, c'est le propre de chaque individu. Il y en a qui me disent, OK, là, c'est notre dernière escale, ça ne marche pas ici, avec la démarche, on arrête. Puis il y en a d'autres qui disent, ben, tu sais quoi, ça ne va pas, mais choisis mes combats. Je laisse tomber ça, parce que le reste est plus important. Il faut juste que s'assurer que la relation m'apporte encore satisfaction.
Ouais.
Que je reste pas là par résignation, par incapacité. Puis il y en a qui choisissent que au-delà de toutes les insatisfactions, tout ce qu'ils ont construit, tout ce qu'ils ont bâti ensemble, ils vont choisir de le rester. Mais il y a des gens qui n'ont plus d'énergie pour continuer.
Si tout le monde est malheureux, puis qu'il y ait eu des efforts pour régler ça, puis ça ne fonctionne pas à un moment donné.
Il faut faire le constat.
Il
faut faire le constat que si on continue, on va se nuire plus. Tu sais, à son propre détriment, là, c'est comme à vouloir rester, mais tout le monde est malheureux. Là, on est malheureux personnellement, le couple est malheureux, les enfants sont malheureux.
Ouais.
Faut être capable de dire, ben, je pars. Puis je pense qu'il faut trouver une façon saine aussi de mettre fin à la relation. Il y a des gens qui arrivent, qui font le constat que on n'est plus amoureux. Mais comment on peut faire pour se quitter sainement? Parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont des entreprises, parce qu'ils ont des propriétés, parce qu'ils ont plein d'affaires. T'sais. Puis souvent, ils vont dire, mon Dieu, on est les meilleurs amis du monde. Dans le fond, on aurait dû faire ça bien avant. Mais tu sais...
Quand ça allait bien, comme
oui.
on dit.
Oui, c'est ça. Il faut faire des choix. Puis il faut toujours renouveler ce choix-là d'être en relation avec la relation dans ce qu'elle a à m'offrir puis dans la vérité de ce qu'elle a à m'offrir. Pas s'attendre à... On s'améliore, on s'investit, on travaille, mais notre naturel, je pense qu'il revient toujours au galop. Là. Mm-hmm.
Est-ce que ça peut arriver, mettons, du monde que la passion puis l'amour, peu importe comment qu'on veut la définir, là, le sentiment que tu as dans le bas-ventre, mettons, en voyant quelqu'un qui rentre dans la pièce, que ça, c'est encore là, mais que vous êtes qui sont rentrés dans des patterns de la vie qui ont fait que là ils sont tranquillement éloignés, qui ont encore le sentiment envers la personne. C'est une possibilité, mettons, de faire OK, check, on fait table rase, on recommence à zéro, puis on recommence la relation au début avec cette passion-là, ou est-ce que c'est impossible de faire marche arrière une fois que mettons, je sais pas, 2 ans après le début d'une relation, où est-ce que tu disais, là, on a pris des mauvais patterns, on a pris une mauvaise direction, on s'aime encore, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Mais je pense qu'à partir du moment où ça, c'est encore là, ben tout est possible.
Tout peut se faire.
Oui, parce que, tu sais, moi, j'ai souvent, quand j'ai un intérêt pour quelque chose, je mets de l'énergie, du temps puis des efforts. Quand j'ai pas d'intérêt, je mets pas d'énergie, pas de temps, pas d'efforts. Fait que là, j'ai un intérêt à mettre ma relation au premier plan, j'ai envie de m'y investir. Je vais y donner du temps, je vais mettre de l'énergie, puis je vais faire des efforts. C'est sûr qu'il faut y mettre du temps puis des concentrations pour qu'on sorte du pattern, mais dans la mesure où j'ai 2 individus qui veulent... essayer de récupérer la relation n'a rien à perdre. Mais j'ai vu beaucoup de relations se renouveler après des grosses crises, après des séparations de mois, des années plus tard, revenir ensemble. Ça prend 2 individus investis.
Ouais,
puis tout
ça.
Est possible. Tu sais, comme je le répète, tant qu'il n'y a pas d'abus, qu'il n'y a pas de violence, qu'il n'y a pas d'abus de pouvoir, puis qu'il n'y a pas de choses qui ont briser le couple, on peut surmonter un paquet d'affaires dans la mesure où il y a des gens qui sont investis, qui se reconnaissent dans leurs difficultés, dans leurs faiblesses, puis qui sont prêts à se rétablir. Mm-hmm. Absolument.
Puis j'imagine que pas mal tout peut se surmonter. Là. J'ai les parents d'un de mes amis, ils s'entendaient pas du tout sur la façon de l'élever, lui.
Mm-hmm.
Puis ils ont décidé, puis ils habitaient ensemble, ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble, ils ont décidé de faire « OK, ben check, on va faire garde partagée. » Ils sont chacun allé habiter ailleurs pendant 15 ans. Puis après ça, une fois que lui était rendu assez vieux, il était rendu adolescent, ils ont fait « Bon, mais on redéménage ensemble parce que... »
Puis ça, là, c'est tellement un point important. Je pense que ça résume toute la conversation qu'on a. C'est que maintenant, c'est plus facile de se donner le droit d'organiser une relation qui répond à nos besoins, même si c'est pas standard, c'est pas conventionnel. Fait qu'il y a des gens qui vivent ensemble, il y a des gens qui vivent dans des maisons séparées, il y en a qui vivent pas ensemble, mais ils ont un chalet commun, il y en a qui se voient juste avec les enfants, il y en a qui se voient pas. Il y a tellement de formules, il y a autant de façons d'être en relation que d'être humain. Mm-hmm. Ça prend juste le courage de s'asseoir puis nommer ça. Et ça, c'est un conflit qu'on a. On essaie-tu comme ça? Fait que là, on a dormi de la misère avec l'éducation du petit. Ben, pourquoi qu'on se fait vivre ça? On fait chacun nos affaires, on s'aime, on préserve la relation à l'enfant. Il y a mille et une façons, mais c'est dur d'assumer cette différence-là.
Ouais.
Mais en même temps...
Surtout dans le moule, excuse-moi, je voulais pas te couper. Surtout dans le moule de la société dans laquelle on est, là, de faire ça, c'est quand même...
Audacieux.
Outside of the box, là, puis, ou le même principe que, tu sais, moi, je sais, pour dans mes prochaines relations, ça va être long avant que je cohabite avec quelqu'un. Là, parce
Parfait.
Que ça a été la nature de trop de problèmes. Là, mais la société dit quand même, rapidement, habite avec la personne. Puis, tu sais, question de pas payer double loyer. Puis là, toutes ces affaires-là. Puis là, tu vois des couples qui déménagent ensemble. Puis c'est bien correct. Sauf que moi, je sais que ça va être... La prochaine fois, il ne faut pas que je fasse ça. Là. C'est une erreur qu'il ne faut pas que je fasse.
Fait que dans le fond, à partir du moment où tu le dis clairement en partant, puis que tu réussis à créer des moments d'intimité, passer un week-end ensemble, on envoie des aspects de l'autre être humain interagir.
Oui,
un peu comme dans Si on s'aimait, il y en a qui sont capables, il y en a qui ne sont pas capables. Mais déjà, quand qui cohabitent, ça suscite quelque chose. Fait que des fins de semaine, mettons par exemple, c'est suffisamment. Mmh. Mais tu le sais que pour toi, que si on traverse cet inconfort-là, tu vas être mal. Mais c'est ça que je dis, c'est que organisons la relation, la formule, le mode qui nous convient. Puis à l'inverse, moi, j'ai des clients qui me disent « Hey Louise, moi, je rêve d'une relation conventionnelle. Moi, je veux ça, un amoureux, une amoureuse dans la fidélité, puis on vient ensemble avec un papa, une maman, un baiser, puis, baiser, oui, un bébé puis une petite clôture. Pourquoi pas? » Ben oui, tout est possible. Il faut juste s'assurer de nommer clairement ces besoins-là à la base, puis que je sois avec quelqu'un qui a un peu la même vision puis la même direction, puis tout est possible.
Qu'est-ce qui... les gens qui nous écoutent, qui pensent qu'ils ont peut-être besoin d'aide dans leur couple ou dans leur... même s'ils ne sont pas en couple, dans leur relation future, c'est quoi les étapes? Qu'est-ce qu'on fait, mettons, qu'on veut aller chercher de l'accompagnement?
Bien, on appelle à l'ordre professionnel, des psychologues ou des sexologues ou des thérapeutes de couple. Juste ne serait-ce que d'aller chercher un support. Des fois, ça peut être quelques rencontres pour nous donner une direction. Pour certains, ça peut être juste, garde, on va s'asseoir et on va prendre le temps de se parler. Ce que la pandémie a fait beaucoup. La pandémie, on laisse beaucoup entendre qu'il y a beaucoup de couples qui ont éclaté, qui ont décidé de rompre. Mais moi, j'ai aussi beaucoup de couples qui se sont dit, hey, quand là, des situations extrêmes comme celle-là arrivent, je réalise à quel point mes petits problèmes puis mes irritants étaient donc bien banals, parce que l'important, c'est qu'on soit ensemble. Fait que pour certains couples, ça peut être juste ça, ce qu'on me garde. Pourquoi qu'on ne remet pas le couple en lumière? Pourquoi on ne se donne pas une date par semaine? Puis ça, on n'est pas obligé de consulter, puis de faire l'exercice quand on se rencontre. On se met beau. Quand je dis on se met beau, là, c'est pas des choix vestimentaires, c'est comme faire une attention particulière, de me rendre attrayant. Mon cœur, mon corps, j'ai le goût, je suis de bonne humeur, j'arrive à la date, on est heureux, puis on fait le point sur notre relation, parce que dans le quotidien, les enfants, le travail, là, on rentre dans l'hiver, on le sait, comment tout est déjà plus long, plus compliqué, de mettre le couple en priorité, des fois, c'est suffisant juste de dire, on se parle-tu des vraies affaires? Puis des fois, juste dire, hey, on en est où dans la relation? Tu sais, comme tu disais tantôt, on est-tu satisfait?
Ouais.
Moi, j'aimerais ça qu'on mette un peu plus d'accent là-dessus. Puis ça, je suis un petit peu dérangée. Puis toi, il y a des choses qui te dérangent. Hey, ça, là, ça évite tellement de conflits à venir parce que c'est tout des non-dits accumulés.
C'est fait au fur et à mesure.
Ben oui. Puis même si on est dû pour un gros ménage de printemps, là, ben, vaut mieux briser la glace que d'accumuler puis que ça finisse par éteindre le sentiment amoureux ou de lien, tu sais.
Mais toujours la peur, tu sais, justement, quand il y a un bouquet accumulé, de sortir tout d'un coup, que ça soit trop, que ça pète.
Tu as raison, puis je le proposerais pas comme ça. C'est comme toutes ces insatisfactions-là, qu'est-ce que ça crée? Tu sais, c'est de la déception, j'ai le sentiment d'être seul, j'ai l'impression qu'on s'en va nulle part, j'ai l'impression qu'on n'est plus ensemble. Fait que travaillons sur le besoin plus que de sortir toutes les petites fois, parce que là, on n'aura pas...
Une liste complète, là, un rouleau qui déroule.
Un parchemin. La date, elle sera pas le fun.
C'est quoi, là, tu sais, là, tu disais, mettons, se faire une date par semaine, puis se faire des checkpoints. C'est quoi, là, mettons, mis à part ça, s'il y en a d'autres, les conseils, mettons, que tu donnes le plus souvent pour une vie de couple en santé, y en a-tu d'autres, mettons?
Bien, la communication, puis la communication, on n'est pas obligé d'être communicateur extrême, là.
Ouais.
Souvent, je dis, faites attention, parce que la communication, là, 32 % c'est le ton qu'on utilise, puis l'expression faciale, 7 % les mots, le reste, c'est du non-verbal. Fait que des fois, les gens, ils parlent pas, mais ils n'ont pas besoin, tu sais, fais attention à l'attitude, au ton quand on se parle. Des fois, je vais dire, faites juste... J'ai un exemple, j'ai un couple qui vient dans mon bureau. Eux autres, ils savent, ils vont se laisser. Ils sont arrivés au bout de leurs affaires. Puis là, ils veulent savoir comment le faire. Puis j'ai juste dit, je sais même pas d'où ça m'est sorti, j'ai juste dit, on essaie-tu d'être gentil un envers l'autre d'ici là? Quand ils sont revenus la semaine d'après, écoute, l'attitude avait complètement changé. S'il vous plaît, merci, changez le ton. Tu sais, c'est comme, c'est à ton amoureux que tu parles.
Ouais.
Je dirais même pas, c'est à ton fils que tu parles. Mais tu sais, on est stressé, puis on va vite, puis on est dans notre bulle. Fait que faire attention à comment on s'adresse l'un envers l'autre. Donner au moins une heure, je dis 3 heures. Le rituel amoureux, c'est 3 heures par semaine où je m'arrête. Puis le but, c'est d'être ensemble au-delà des responsabilités, des choses à régler. Divertir le couple, c'est comme moi, je vais me réaliser, tout va te réaliser. Puis on revient ensemble, puis on se raconte. Puis, par-dessus tout, je l'ai dit rapidement tantôt, on peut-tu prendre le temps de dire merci pour l'attitude que tu as, pour ce service-là que tu m'as rendu, d'être encore là malgré toutes mes difficultés. Ça, on le fait pas. Au début, on le fait, hein? On se donne du temps. On est juste ensemble. Écoute, on n'a pas de projet, on discute, on s'embrasse, ça finit plus. On est juste à se complimenter, puis après, on se demande comment ça qu'on est bien de même. C'est la même formule. C'est juste que le quotidien vient de s'installer. On se donne du temps. On se reconnaît par la positive, on fait attention à comment on l'exprime. Puis ça, déjà, ça devrait remettre le couple sur les rails. Puis même si la forme a changé, il est peut-être moins passionnel, mais s'il est encore engagé, ça va redonner un peu d'air puis un peu d'oxygène à la relation.
J'ai l'impression que c'est vraiment de rester conscient au jour le jour des petites actions. Là, parce
c'est
que,
tellement ça.
Ou, à l'inverse, mettons un ton un peu plus sec parce que tu es stressé ou des petites... juste mettons le matin, être attentionné à l'autre, pas dire bon matin ou pas, des petites affaires qui peuvent être facilement skippées si on nourrit pas ça, puisqu'on fait pas attention.
Absolument.
Quand tu accumules ça, ça fait un quotidien qui est pas mal moins beau puis le fun que justement au jour le jour, essayer d'être conscient de ces petites affaires-là.
Oui, puis tu sais, juste prendre le temps quand on rentre, aller saluer l'autre, t'sais, c'est des affaires tellement banales. Les gens, ils s'embrassent souvent avant de partir pour travailler parce que t'étais-tu présent ou t'étais déjà en train de te demander si t'avais pas une étiquette?
Ouais, c'est ça.
On peut-tu juste être présent tête, cœur, corps? Ça prend 10 secondes là, pour donner un baiser de bonne journée. Mm-hmm. Mais d'être présent, ça fait toute la différence. De regarder l'autre, quand « Ah ouais, mais je t'entends. » Non, mais il y en a qui ont besoin d'être regardés. Tu sais, ces petites affaires-là qu'il faut se préciser, puis t'as raison, ça peut s'accumuler pour faire un gros nœud relationnel, mais ça peut tout simplement faire la différence dans un quotidien beaucoup plus sympathique, beaucoup plus aéré, beaucoup plus léger.
Parce qu'au final, une vie de couple, c'est le quotidien, là, c'est ce qui compte. Là. C'est pas la fois que tu vas en voyage.
C'est pas la semaine au Mexique. Là.
Ouais, c'est ça.
Non. Ça va toujours bien, là.
Ouais, exact. Ouais. Merci infiniment.
Vraiment.
Ben, merci beaucoup, Dominique. Merci,
c'était vraiment
PH.
Super.
Ben, même chose. C'était vraiment un bonheur partagé. Ouais. C'était sympathique. Merci de votre intérêt, votre enthousiasme.
Crime.
Vraiment.
Parfait. Merci. On continue d'écouter si on s'aimait la finale.
Ah ouais, la finale, ça s'en vient. On a trois belles semaines.
Yes.
Parfait, merci. C'était du contenu excellent.
Ah, c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. Oh yeah. Si vous voulez plus de contenu excellent comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour 3$ par mois. C'est ça, 3$?
Ouais, 3$ par mois.
3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez pouvoir avoir...
Une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur les autres.
Tu veux toujours avoir une avance sur les gens autour de toi. Ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète.
Puis, en plus, parce que là, je sais que le podcast finit, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait des encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast. On va en jaser, on va chiller. Nicole, il est plus là maintenant. Il est encore moins de filtres. Il travaille à place. De temps en temps, il est là, mais on jase, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir, mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner.
Abonnez-vous.